qui nous rejoint depuis l'Allemagne, déjà avec qui vous avez déjà peut-être pu échanger à maintes reprises ici sur la radio Afia News. Nous recevons aujourd'hui, dans un contexte un peu différent, Monsieur Sadio Barry, qu'on recevait en tant que, disons, animateur, en tant que homme de presse. Aujourd'hui, on le reçoit en tant que leader politique d'un nouveau parti qui a vu le jour il y a quelque temps de cela, donc qui fait aujourd'hui beaucoup parler de lui à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, aussi à travers la presse, à travers les médias et bien d'autres aussi. C'est un honneur aujourd'hui de retrouver Monsieur Sadio Barry dans cette émission ce soir avec de nouvelles couleurs. Bonsoir, Monsieur Barry.
Bonsoir, Monsieur Ba, et bonsoir à tous les auditeurs de Afia News. Bonsoir à tous les Guinéens et à toutes les Guinéennes. Et bonsoir aux amis de la Guinée et aux fidèles auditeurs de Afia News.
D'accord. Merci, Monsieur Barry. C'est un plaisir de vous avoir sur Afia News. Nous allons échanger, disons, entre 30 et 40 minutes tous les deux, et ensuite on passera aux auditeurs pour des éventuelles questions et commentaires. D'accord. Vous connaissez le principe, chers auditeurs, pour intervenir, c'est 361. Pour ceux qui veulent prendre la parole dans cette émission ce soir, ceux qui sont connectés directement sur la radio et ceux qui seront sur l'application, c'est soit étoile 5, c'est étoile 5, justement, pour prendre le micro. Monsieur Sadio Barry, de Sadio Barry d'étudiant dans les années 90, puis membre sympathisant du RPG, sans oublier aussi votre participation aux événements de janvier, février 2007, à aujourd'hui leader d'un parti politique en Guinée. Parlez-nous brièvement de ce parcours et surtout de vos sources de motivation.
Bon, je vous remercie. Je voudrais, avant de commencer, d'abord corriger un passage. Les événements de 2007 ne m'ont pas trouvé en Guinée. Nous avons bien sûr pris activement part à l'organisation de la riposte, des réactions de la communauté guinéenne de l'extérieur et à la conscientisation et à la sensibilisation, à la motivation de la communauté internationale, notamment l'Union européenne, à intervenir en Guinée. On a activement pris part à cela à partir de la diaspora, mais je n'étais pas sur le terrain en Guinée. Bon,
D'accord.
c'est ce que je voulais préciser par rapport à ça. Excusez-moi, je vais déconnecter un peu ces choses-là sur Facebook parce que les gens appellent. Bon,
D'accord.
donc, alors, c'est en ce qui concerne les événements de février 2007, nous avons pris part à ces événements, mais depuis l'extérieur, je n'étais pas sur le terrain en Guinée. Et ce que je pourrais dire sur ma personne, comme vous le dites, je m'appelle Abdoulaye Sadio Barry. Je suis né à Siguiri, grandi à Cancan. D'abord, je suis né à Siguiri de père et de mère guinéens, qui et aussi sont nés de père et de mère guinéens. Alors, j'ai grandi à Cancan. J'ai fait une partie de mes études à Cancan. Je suis venu faire le lycée à Fria. Puis, j'ai continué à Conakry où j'ai fait mes études universitaires avant de venir en Allemagne. En Guinée, j'ai étudié l'électromécanique. J'ai fait l'électromécanique à l'université de Conakry où j'étais premier de mon option. J'ai été entre 91 et 92 membre du comité de coordination, élu membre du comité de coordination des étudiants, le CC. Et j'ai été, après avoir été choisi par les étudiants, j'ai été nommé dans le conseil des œuvres universitaires de Conakry, et où je devrais défendre les intérêts des étudiants et des élèves de la Guinée. Alors, j'ai été aussi, ainsi j'ai pris part de façon active et d'ailleurs en tant que leader au grand mouvement des étudiants et élèves de Guinée de 1991 à 1992. Ici en Allemagne, j'ai continué les études où j'ai fait un diplôme d'informatique et j'ai fait partie des fondateurs du site Guinée Presse Info. J'ai été dans mes activités politiques et sociales en Allemagne. J'ai été choisi, élu vice-président du Conseil d'intégration à Aachen, regroupant les partis politiques allemands, les organisations de la société civile et l'administration. C'était en 2010. Et entre 2010 et 2014, j'ai été président du Conseil d'intégration et élu président du Conseil d'intégration. Et à cette même occasion, j'ai été choisi et délégué de Aachen à la Commission nationale d'intégration de l'État de NRW, la Rhénanie du Nord-Westphalie. C'est l'État le plus peuplé de l'Allemagne avec 18 millions d'habitants. Bon, la dernière responsabilité politique que j'ai occupée avant la fondation de notre propre parti, c'était le secrétariat général du bureau exécutif national de l'UFD, du parti duquel nous avons démissionné en bloc lorsque son président a trahi pour rejoindre Alpha Condé. Voilà. C'est ce que je peux dire par rapport
D'accord.
à cette question.
D'accord. Merci, M. Barry. Il y a aujourd'hui hein, près de, disons, environ peut-être de 200 partis politiques en Guinée et certainement beaucoup d'entre eux seraient ravis de vous avoir dans leur équipe. Cependant, vous avez préféré créer votre propre parti.
Oui. Comme vous le savez, en tant que journaliste, vous avez déjà vécu cela. Notre objectif n'a pas été tout de suite de conquérir un poste, de conquérir un pouvoir ou un intérêt quelconque. C'est pourquoi une grande partie des élèves et de ceux qui ont été élèves et étudiants dans les années 90, qui se sont toujours battus pour le multipartisme en Guinée, c'est nous, c'est notre génération qui s'est battue pour arracher de l'ancien à Conté le multipartisme intégral. Les leaders politiques Alpha Condé, Sirajo Diallo, Bama Madou et autres passaient par nous pour faire pression sur le régime militaire pour obtenir ce qu'ils demandaient. Et à l'époque, ils ont obtenu des conditions qui pouvaient mener la Guinée à la vraie démocratie, grâce à notre lutte. Mais vous avez constaté, nous nous sommes toujours battus, parce que nous on n'a jamais cherché à prendre le devant. On s'est toujours battus. Tous ceux qui sont venus de l'extérieur ou qui sont de l'intérieur, qui disent se battre pour un changement démocratique dans le pays, nous les rejoignons, nous nous battons sur le terrain. Mais nous avons simplement constaté à chaque fois que le peuple a souvent gagné la lutte sur le terrain. Quand il y a des changements, ceux-là même derrière lesquels on se battait, dès qu'on les met en avant, dès qu'ils ont maintenant le pouvoir de décision, ils s'occupent de leurs intérêts personnels. Les problèmes contre lesquels les populations guinéennes se soulevaient et ces problèmes demeurent et même deviennent graves. Alors finalement, nous avons encore sous Alpha Condé, nous avons essayé de nous joindre à des aînés qui ont juré engager une lutte pour un véritable état de droit en Guinée pour contre l'injustice que Alpha a essayé d'institutionnaliser en Guinée et le racisme et l'ethnocentrisme, la division ethnique que le régime RPG a essayé d'institutionnaliser en Guinée. Ceux qui ont dit qu'ils se soulèvent contre ça, parmi nos aînés, on a dit bon, on vous accompagne. On s'est mis derrière les gens et aussitôt que Alpha leur a fait une petite offre, Alpha leur a tendu la main, il leur a offert quelque chose de personnel, ils nous ont directement trahis, ils ont rejoint Alpha Condé. Eh bien, nous avons maintenant réfléchi. On a essayé de suivre maintenant les conseils de deux personnalités historiques. La première personnalité ici, que moi dont j'ai essayé de suivre, c'est Albert Einstein. Albert Einstein a dit que il ne faut pas espérer que ceux qui ont créé des problèmes, que la solution vienne de ces personnes-là. Qu'il ne faut jamais espérer trouver la solution des problèmes de ceux-là même qui en ont été les auteurs. Ça, c'est un. Diana Ross a dit une chose. Vous ne pouvez pas vous asseoir et espérer que d'autres personnes réalisent votre rêve à votre place. Eh bien, nous voulons le changement. Nous voulons être pris en considération en Guinée. Nous voulons améliorer les conditions de vie de nos populations en Guinée. Alors, nous devons personnellement nous lever et nous battre pour cela. Et le cadre dans lequel on peut le faire en Guinée, selon la constitution actuelle, c'est un parti politique. C'est pourquoi nous avons décidé de créer notre propre parti politique. Merci.
D'accord. Merci, M. Barry. Pouvez-vous nous en dire plus sur le choix du nom ainsi que le logo du parti?
Merci. Cette question revient toujours. Bon, comme nous l'avons déjà dit, comme je l'ai déjà dit plus tôt à l'émission de Jacques Roger, et c'est écrit aussi dans nos statuts, l'emblème du BAG, c'est l'aigle brun avec un fond et avec en fond le soleil, c'est-à-dire c'est l'article 5 de nos statuts. Le soleil symbolise le pouvoir, comme vous le savez. Par sa lumière, il éclaire tout et permet de tout voir. Il organise et dirige notre vie, en fait. Et c'est ainsi que le lever du soleil symbolise la vie et le coucher du soleil symbolise la fin de la vie. Nous avons choisi le lever du soleil qui symbolise la naissance et la régénération. Parce que la Guinée a besoin aujourd'hui d'une renaissance en réalité. Nous avons besoin de renouveau en Guinée. Et quant à l'aigle, lui, il symbolise la majesté, le courage et la vision. L'aigle est un souverain, impuissant, il est rapide et il voit très loin. Il possède de grandes serres et des pattes puissantes pour saisir ses proies. C'est-à-dire, l'aigle ne fait pas partie de ces animaux, de ces chasseurs qui peuvent attraper une proie, mettre même presque dans sa bouche et quelqu'un d'autre vient lui retirer ça facilement. L'aigle ne perd pas ce qu'il a gagné. Il ne fait pas que voler, mais il s'élève plus haut. Il est intelligent et courageux, il affronte les obstacles, il sait saisir les opportunités et les convertir en une situation défavorable et convertir une situation défavorable à son avantage. Et c'est pourquoi, beaucoup ne le savent pas, l'aigle, c'est le seul chasseur qui vole à travers la tempête. Le seul, même l'être humain, quand il y a la tempête, il essaie de se mettre à l'abri. L'aigle est le seul qui est capable de sortir, qui ose chasser dans la tempête. C'est-à-dire, quand il a un objectif, il ne recule jamais jusqu'à ce qu'il l'atteigne. Alors, il y a autre caractéristique qui accompagne, qui symbolise cet oiseau. L'aigle est fidèle à ses amitiés et à ses convictions. Imaginez bien, M. Ba, l'aigle s'en fout de rester seul. Vous savez, généralement, on fait certaines choses dans la vie parce qu'on a peur de la solitude. On veut toujours aller avec les autres, avec le courant. Mais l'aigle s'en fout de rester seul. Lui, tant qu'il ne trouve pas le bon partenaire, il reste seul jusqu'à ce qu'il trouve le bon partenaire. Je dis bien jusqu'à ce qu'il trouve le bon partenaire. Il ne se marie qu'une seule fois et pour la vie. Il ne se lance pas dans une aventure juste parce qu'il a vu d'autres le faire. Il vise un objectif et reste fidèle à ses engagements. Alors, nous avons été séduits par ce que cet oiseau représente. Les idées de beauté, de fidélité, de rapidité, d'audace, de détermination, de force et de prestige. Il y a une autre raison très pratique qui nous a conduit à choisir l'aigle dans la symbolisation du BAG, c'est-à-dire du bloc pour l'alternance en Guinée. Vous savez que le parti au pouvoir RPG a inconsciemment ou peut-être hasardeusement choisi le coq, c'est-à-dire le poulet comme symbole. Mais je vous dis, M. Ba, et cela lui passe très très bien parce que, en fait, le poulet et le corbeau symbolisent la paresse et la saleté. Alors, quoi de mieux qu'un aigle pour chasser les poulets qui souillent actuellement notre pays? Notre bien, notez très très bien, messieurs, qu'il ne s'agit pas, l'aigle ici dont nous parlons, ce n'est pas le petit épervier qui attrape les poussins, qui sont maintenant connus en Guinée en ce moment, mais il s'agit très bien de l'aigle qui prend le coq lui-même. L'aigle qui prend les poules, le coq et les renards, car c'est le coq lui-même et son fauteuil qui nous intéresse en Guinée. Ce ne sont pas les poussins que nous allons essayer de reconvertir après. À présent, je voudrais alors dire que ce que le BAG voudrait symboliser, c'est bien ce que représentent le soleil et l'aigle. La clairvoyance, l'audace, la force, l'espoir pour l'alternance qui permettra enfin à la Guinée de prendre son envol et de la hauteur vers la lumière, la renaissance, la régénération. Nous voulons rendre à la Guinée sa souveraineté, sa dignité, sa grandeur, sa fierté et son prestige perdu. Merci, M. Barry.
Merci, M. Barry. Votre parti s'inscrit-il dans un courant politique? Si oui, lequel?
Vous savez, ce que moi j'aimerais comprendre,
oui.
Comment peut-on penser que la résolution des problèmes de la Guinée passe par l'appartenance préalable à une idéologie, à des courants contrôlés de l'extérieur? Cela ne ferait qu'apporter d'autres problèmes nouveaux à notre société, parce que vous savez que ces idéologies, l'international socialiste, l'international libéral, ainsi de suite, ce sont maintenant des courants qui sont contrôlés depuis l'extérieur, dont les lignes de conduite sont définies depuis l'extérieur. Eh bien, ces clivages-là ne peuvent qu'apporter d'autres problèmes à ce que nous avons maintenant en Guinée, en réalité, si nous essayons de nous y lancer. Eh bien, moi, je pense que nous pensons au BAG qu'à cette phase d'évolution de notre pays, rentrer dans ces clivages qui ne répondent pas aux réalités de notre société ne serait pas une bonne chose. Et donc, nous refusons carrément d'aller dans cette aventure-là. Parce que choisir un courant politique affirmé à l'occidental, c'est décider de défendre non pas tout le peuple dans son ensemble, mais une fraction, un groupe d'intérêts donné. Parce que c'est ça, en réalité, les courants politiques, tels qu'on les voit à l'Occident, en Occident ici. Donc, ce sont des groupes d'intérêts. Alors, si vous choisissez un groupe d'intérêts, c'est que vous renoncez à défendre le peuple dans son ensemble. Vous vous battez pour des intérêts catégoriels. Ce que nous ne voulons pas faire. Nous, à ce niveau d'évolution de notre pays, le peuple tout entier a besoin du minimum existentiel de base. Nous, au BAG, nous n'appartenons en conséquence à aucun courant particulier et ne voulons pas qu'on nous colle une étiquette non plus. Nous respectons le choix de chacun pour autant qu'on respecte le nôtre. Nous nous battons pour des valeurs communes à tous les courants normaux possibles. L'état de droit, une justice équitable, l'eau potable, le courant électrique, la formation, l'accès aux soins de santé et un environnement vital décent, sécurisé et hygiénique. En ce moment, notre combat veut couvrir tous les Guinéens, les catégoriser gauche, droite, libéraux, etc. Ce n'est pas du tout adéquat en ce moment-là. Dès que vous parlez de gauche et de droite, vous savez bien, M. Ba, c'est que vous devriez également parler d'extrême gauche et d'extrême droite, n'est-ce pas? Si vous parlez de gauche, de droite, de libéraux, c'est que vous devriez aussi parler d'extrême gauche et d'extrême droite. Mais moi, je vous pose une question, M. Ba. Ces courants-là existent-ils chez nous?
Bon, il y a par exemple le RPG qui se réclame du courant socialiste, le socialiste international, l'UFDG qui se réclame des libéraux et qui participe souvent aussi à des conférences et tout à travers le monde. Bien, bon, mais quand il s'agit de la pratique sur le terrain, il y a quoi de poser des questions sur la politique qu'ils appliquent sur le terrain, la perception, les projets et tout correspondent réellement à ce courant. Là, c'est une question qu'il faut se poser. Et là, c'est pas seulement au niveau peut-être de la Guinée, même en France aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Les socialistes, par exemple, qui vont complètement de l'autre côté, et les libéraux, bon, c'est une question qui mérite d'être posée, M. Barry. Et peut-être que vous êtes mieux placé pour pouvoir répondre à cette question pour moi.
Oui, mais M. Barry. Alpha Condé, il se réclame des socialistes, mais la plupart de ses amis, ceux qui sont même sur le terrain qui le soutiennent, généralement c'est des communistes, si vous suivez très bien les choses.
Oui, c'est
parce que Alpha Condé, je peux comprendre, il ne connaît pas les réalités de chez nous. Il a grandi en France, il n'a vécu qu'en France, il est parti en Guinée avec les colorations qu'il a. Vous comprenez? C'est un Alpha Condé, c'est un Français, c'est un Guinéen, c'est-à-dire c'est un Français raté, un Africain qui ignore des réalités de son continent. Il est venu de la France et il n'est pas prêt à appliquer, c'est-à-dire la gouvernance qu'il a dû suivre en France, mais il se réclame d'un courant qui est pratiquement étranger aux réalités de notre société, parce que c'est ce qu'il connaît. Mais regardez une chose, par rapport aux autres partis. Prenons, vous avez cité l'UFDG qui dit qu'ils sont des libéraux. Mais, M. Ba, vous avez remarqué, lorsqu'il y a eu la convention des démocrates et des républicains aux États-Unis, l'UFDG est allé où? Ils sont allés où? Ils sont allés à la convention des démocrates.
Oui.
Ça, c'est pas les libéraux. Leurs partenaires devraient être les républicains. C'est qu'ils connaissent même pas et ce qu'ils veulent. Ils connaissent pas à quoi ils appartiennent en réalité. Ils sont allés à la convention des démocrates au lieu d'aller à la convention de Donald Trump. C'est là-bas leur partenaire en réalité. Les libéraux devraient aller chez les républicains. Maintenant, ça, c'est non. Ici en Allemagne, la fédération de l'UFDG, vous savez, elle fait ses réunions où? Mais dans les locaux du Parti communiste allemand, les Linke, ils font leurs réunions dans les locaux du Parti. Donc ici, les gens avec lesquels ils composent, ce sont les communistes ici. Mais pourquoi ils ne vont pas à la CDU qui correspond normalement, c'est-à-dire, j'ai dit même CDU, ils devraient aller au FDP. C'est le FDP qui peut être le partenaire de l'UFDG en Allemagne. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Hein? Ils vont dans les locaux du Parti communiste. Les gens, c'est du n'importe quoi. Ils essaient de copier simplement parce qu'ils veulent obtenir, d'une manière ou d'autre, des soutiens à partir de l'Occident. Et donc, ils essaient de s'affilier à des courants politiques occidentaux en espérant obtenir du soutien en retour. C'est tout. Et puis, il y a un autre danger. La plupart de nos économistes qui ont dirigé avant nos pays, ils connaissent un peu les jeux du Fonds monétaire, de la Banque mondiale. Ils ont essayé de s'affilier à des multinationales ici, c'est-à-dire ils s'associent au lobby des multinationales, parce que les libéraux, ce sont des lobbies des multinationales, des capitalistes et des esclavagistes ici en Occident. Ils s'associent à ces gens-là parce qu'ils veulent appliquer au pied de la lettre les recommandations de ces multinationales en Afrique. Et cela veut dire simplement vendre carrément toutes nos ressources et aux multinationales, et à des puissances étrangères, vendre nos ressources, vendre nos hôtels, vendre nos terres cultivables, vendre tout, tout, même ce qui relève de la vie et élémentaire, de la survie de la nation, de la souveraineté de notre nation, ils vont tout vendre aux étrangers, à des puissances étrangères. Et c'est ça le danger, le vrai danger de ceux qui se réclament aujourd'hui des libéraux. Et remarquez, tous les partis, ils se réclament de cela en Guinée. Il n'y a que le RPG, et Alpha, il a été intelligent d'ailleurs, quand lui dit qu'il se réclame, il est du parti, il est des socialistes. Parce que si vous constatez, c'est parce que nos premiers ministres, les anciens ministres, ils n'ont pas le sens politique. Ils ont tous chanté haut et fort. Ils viennent dans les réunions des libéraux en Europe ici, ils s'affichent trop, et qu'est-ce qui se passe? C'est eux leurs alliés. Alors que, en ce moment, en Europe, ce n'est pas les libéraux qui dirigent. C'est la coalition des conservateurs et des partis, c'est-à-dire de l'international socialiste. C'est eux qui dirigent en Europe. Donc, le Parlement est dominé par ces gens-là. La Commission européenne, l'Union européenne aujourd'hui dans son ensemble, elle est dirigée par les autres courants. Les libéraux n'ont aucune force ici. Et comme toute l'opposition s'est alignée derrière les libéraux, ils disent qu'eux sont libéraux, ce sont les libéraux qui sont censés les défendre ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Alpha s'est aligné à l'international socialiste qui dirige carrément les affaires de l'Union européenne, qui prennent des décisions à l'Union européenne. Lorsque les élections sont arrivées en Guinée, naturellement, l'Union européenne, en conséquence, conformément à la sensibilité des gens qui prennent des décisions, l'Union européenne s'est placée derrière Alpha Condé, parce que c'est lui qui est leur partenaire. Vous comprenez? C'est pourquoi essayer de revendiquer, de prendre des colorations dont on ne comprend pas l'historique, on ne comprend pas la signification, ça peut mener vraiment à des conséquences très fâcheuses. Alors les Africains, tels qu'ils l'ont fait dans les années 50, en disant qu'eux, ils sont des non-alignés entre les deux blocs, ils ont dit qu'ils sont des non-alignés, ça c'était intelligent à l'époque. Moi je pense que dans des pays en voie de développement, il est bien de réfléchir aujourd'hui et de ne pas coûte que coûte vouloir choisir un courant en Occident. Si on choisit un courant, c'est qu'on se prive carrément le soutien et des autres. Merci.
D'accord. Merci, M. Barry. Pouvez-vous nous énumérer les instances du parti, faire l'état, expliquer aussi les différents rôles de ces différentes instances et nous parler aussi peut-être de l'état d'avancement de l'implantation de votre parti dans le monde?
Bon, vous savez, tel que stipule l'article 23 de nos statuts, c'est-à-dire à chaque entité organique du parti, il correspond une ou plusieurs instances. Les instances du BAG sont l'Assemblée générale hebdomadaire qui a lieu toutes les semaines au niveau de chaque organe du parti, en principe. Nous sommes en ce moment en phase d'implantation. Donc, la pratique sur le terrain peut pour le moment être un peu différente. Mais alors, il y a les instances et l'Assemblée générale hebdomadaire qui a lieu toutes les semaines au niveau de chaque organe du parti. Il y a la conférence du secteur ou de district qui a lieu tous les mois. L'Assemblée générale du secteur ou de district qui a lieu tous les deux ans pour élire le bureau de secteur ou le bureau de district. Il y a la conférence de quartier ou la conférence rurale qui doit avoir lieu tous les trois mois. Il y a l'Assemblée générale de quartier ou rural qui a lieu tous les deux ans pour élire le bureau du quartier ou le bureau rural. Il y a la conférence communale ou conférence préfectorale qui a lieu tous les six mois. Il y a l'Assemblée générale communale ou préfectorale qui a lieu tous les trois ans pour élire le bureau communal ou le bureau préfectoral. Il y a la conférence de section qui a lieu tous les six mois. Il y a l'Assemblée générale de section qui a lieu tous les trois ans pour élire le bureau de section. Il y a la conférence fédérale qui a lieu un an, c'est-à-dire qui a lieu une fois par an. Il y a l'Assemblée générale fédérale qui a lieu tous les quatre ans pour élire le bureau fédéral. La section du bureau, la session du bureau exécutif national il y a ça, mais qui a lieu une fois par mois. Et il y a l'Assemblée générale du Bureau exécutif national qui a lieu une fois par an. Il y a la session du comité consultatif national qui a lieu 2 à 4 fois par an. Il y a le Conseil national, c'est-à-dire l'instance du comité national, qui a lieu une fois par an. Il y a le congrès qui a lieu tous les 5 ans. Entre deux congrès, le Conseil national est l'instance suprême du parti, dont les prérogatives sont celles du Congrès, sauf la modification des statuts et les élections des membres des conseils nationaux et du Conseil exécutif national. Et notre parti est en train de bien évoluer en ce moment sur le terrain. Je vous rappelle que nous ne sommes officiellement arrivés, nous sommes officiellement arrivés sur le terrain seulement le 4. C'est-à-dire le 4 août, le parti s'est fait connaître officiellement. Et donc, ce n'est pas, nous n'avons même pas 2 mois d'existence. Mais nous avons, en ce moment, il y a juste quelques semaines, par exemple, vous prenez, c'était le 20 août 2016, là, en Allemagne, on a pu mettre en place la Fédération de l'Allemagne. C'était vraiment osé, le pari était osé parce que c'était à 3 semaines seulement du lancement du parti. Le parti n'était pas connu, le nom n'était pas connu, pas du tout. Et donc, mais nous avons pu relever le défi. Vous avez certainement vu les images, vous avez eu les échos. D'ailleurs, il y a un des journalistes, il y a un membre de votre équipe qui a assisté à tout. Il peut témoigner du succès qu'on a eu. Et en Angola, au Sénégal, au Canada, aux États-Unis, en France, il y a des équipes qui sont en train de se constituer pour former là-bas des sections, des commissions. Bon, parce que nous, on a pensé que ce n'est pas bien pour le moment directement d'aller à la création des fédérations. Il faut aller par la base. Donc, on va mettre en place dans tous ces pays. Ce qu'on appelle une commission d'implantation qui va d'abord jouer le rôle du bureau fédéral provisoire, maintenant pour s'occuper de la gestion courante des affaires du parti, de son implantation et de faire connaître le parti, d'enregistrer les gens et d'organiser maintenant la mise en place des cellules de base dans les différents pays. Bon, la Belgique nous a annoncé hier qu'ils voudraient, eux, organiser leur assemblée le 8 octobre prochain pour mettre en place l'organe officiel du parti. Et il y a d'autres qui sont en train aussi de s'organiser dans ce même sens. Et on nous a fait part de cela du côté du Sénégal. Il y a une équipe constituée au Sénégal qui nous a consultés, qui demande notre autorisation pour mettre en place directement aussi des organes représentatifs du parti. Et on a connu la même demande du côté de l'Angola et aux États-Unis, le travail est en cours, de même au Canada.
OK.
Bon, à
D'accord.
Kankan également, bon, OK, vous pouvez continuer. Et
Non,
le
allez-y,
travail
allez-y. Non,
continue
allez-y.
également sur le terrain,
Sur le terrain,
mais on
justement,
peut
j'allais
y
parler
revenir après. Merci.
du cas de la Guinée. Est-ce que, parce
Oui.
que certains de vos rédacteurs, par exemple, disent, écoutez, c'est vrai, vous vous implantez à l'extérieur et tout, en Europe et un peu à travers le monde, mais sur le terrain, en Guinée, bon, ils ne vous voient pas pour le moment. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette situation? Comment ça se passe? Comment ça se déroule au niveau de la Guinée?
Vous savez, nous avons opté pour le travail méthodique. Et comme Descartes l'a conseillé, quand on a beaucoup de choses à faire, il faut toujours commencer par étapes, aller du plus simple au plus difficile. La Guinée n'étant pas un pays démocratique, n'étant pas un pays où la circulation et la communication est facile, le travail à abattre pour mettre en place des organes en Guinée peut être beaucoup plus difficile, tant sur le plan pratique que sur le plan des obstacles que nous pouvons rencontrer à travers le pouvoir en place, donc qui peut tout faire pour nous créer des obstacles et des difficultés. Il y a aussi le fait que les populations ne sont pas très très éclairées encore. Et le parti est pratiquement inconnu. Il faut faire connaître le parti avant de vouloir installer des organes. Et donc, c'est pourquoi nous nous sommes concentrés d'abord à installer, à implanter le parti avec des organes au niveau de la diaspora où les gens accèdent facilement à l'information et où on peut facilement éclairer les gens, les informer du parti, leur donner toutes les informations relatives au parti sans problème et où on peut bien circuler et faire le travail qu'il faut. Après, ça trouverait que les populations en Guinée, nous avons eu le temps, nos équipes sur le terrain ont eu le temps de sensibiliser les gens, de les informer, de les éclairer, d'enregistrer. Parce qu'en ce moment, on continue à faire un travail d'enregistrement sur le terrain en Guinée. Et après ça, pour installer, par exemple, un organe, vous devez faire appel aux membres du parti. Vous faites appel aux membres du parti pour installer un organe du parti. Mais pour cela, il faut donc, alors, nous sommes à l'étape où il faut enregistrer d'abord les gens. C'est ce qu'on est en train de faire d'abord. Mais je peux quand même vous dire que c'est avant-hier, déjà, à Cancan. Et Cancan, les membres du parti ont tenu leur troisième assemblée à Cancan. C'était la troisième assemblée qui a été présidée par des membres du bureau exécutif national originaire de Cancan qui ont fait le déplacement exclusivement dans cette région pour installer là-bas une cellule de base, c'est-à-dire pour installer là-bas ce qu'on appelle la commission d'implantation. Et il s'agit de nos frères, des messieurs Sidiki Keïta, des messieurs Sidiki Kaba et Djiba Kourouma, qui ont décidé de leur propre volonté. Ils ont dit, bon, nous, on ne veut pas attendre, et tout, on veut aller à Cancan. On profite maintenant de cette époque-là, de ces congés, on va à Cancan. Nous mettons tout de suite en place une équipe de base. Eh bien, l'équipe de base dont on nous a communiqué avant-hier, je peux vous lire, vous pouvez être très con, parce qu'il s'agit bien sûr d'une commission d'implantation, parce que nous avons donné instruction qu'on ne cherche pas pour le moment à installer directement une section ou une fédération. Parce que là, ça veut dire que si on le fait maintenant tout de suite, nous courons le risque que les bureaux soient constitués seulement des personnes qui sont proches ou qui sont à peu près, qui viennent du même coin. Par exemple, d'un même quartier ou même d'un même, si c'est l'extérieur d'une même ville, alors que la fédération doit couvrir, ça doit être la résultante de toutes les sections, vous comprenez. Donc pour éviter ce genre de risque que d'autres partis ont connu, nous, on met d'abord en place les commissions d'implantation. On recrute suffisamment d'abord, avant maintenant, qu'on installe les sections, avant de faire appel à toutes les sections pour installer la fédération ou bien l'organe correspondant. Alors, à Cancan, l'équipe dont on nous a communiqué hier, le nom, c'est M. Badé Koivogi, M. Khalilou Kourouma, Ousmane Kanté, Ali Kake, Agui Boudiallo, Alcène Bari et Nassetou Kondé. Eh bien, vous pouvez vous-même constater que le BAG connaît un départ merveilleux et ce départ donne au BAG le caractère d'un parti, franchement, qui peut regrouper les Guinéens dans leur ensemble.
D'accord. Si je comprends bien, M. Barry, il existe déjà une équipe au niveau de la Guinée qui s'occupe de cette sensibilisation.
Naturellement.
D'accord. Maintenant, pour ceux, par exemple, qui sont en contact, parce que nous avons des auditeurs qui nous écoutent depuis la Guinée, directement connectés sur la radio Afianus, pour ceux, par exemple, qui sont en Guinée, qui voudraient participer, qui voudraient s'inscrire dans votre parti, qui veulent participer à différentes activités, quelle est la démarche appropriée? Quelles sont les personnes qu'il faut contacter? Comment il faut s'y prendre?
Oui, pour s'inscrire, pour adhérer au parti politique, on peut s'adresser à tout membre connu du parti. Parce que toute personne qui a déjà adhéré au parti et qui a un statut de membre du parti, ça veut dire que la personne a fait des démarches et connaît les organes et les responsabilités où il faut faire quoi. Ah, donc, si vous vous adressez à n'importe quelle personne, à n'importe quel membre du parti, il vous conduira directement à l'organe qui peut directement vous enregistrer et vous donner vos pleins droits de membre du parti. Mais nous avons mis en circulation les fiches d'inscription sans avoir contacté aucun membre du parti. Si vous avez accès à ces fiches, par exemple sur Guinée Presse à droite, vous pouvez voir en bas là-bas. Il y a le préambule, il y a l'évolution du parti, il y a aussi directement on peut. Ok, là, voilà, fiche d'adhésion et de soutien au parti. Si vous cliquez sur le lien là, c'est la fiche d'adhésion ou la fiche de soutien. Vous pouvez adhérer, vous pouvez ne pas adhérer, mais soutenir le parti. Donc, dans l'un ou l'autre cas, vous pouvez accéder à ce lien. Dans ce lien-là, il y a un formulaire. Vous prenez ce formulaire, vous le remplissez. Si vous le remplissez tel que indiqué, vous envoyez ça, par exemple, vous le scannez. Vous le scannez et vous envoyez la fiche, le fichier en question à l'adresse e-mail qui est sur le formulaire. Si vous prenez le formulaire en bas, il y a des adresses e-mail. Le mail pour la comptabilité. Et le mail général. Donc, vous pouvez choisir là-bas, selon le type, selon ce que vous venez de faire, ce que vous voulez faire. Par exemple, si c'est pour une contribution, vous pouvez directement adresser à BAG Comptable, mais peu importe ici, ce que vous voulez. Il suffit de choisir ici une adresse en bas. Vous prenez, vous envoyez directement la fiche à cette adresse email. Ou bien, si vous connaissez des membres du parti, dans la localité où vous vous trouvez, vous remplissez la fiche, vous partez, vous remettez aux membres du parti. C'est fini, vous êtes enregistré, vous êtes membre du parti. C'est
D'accord. Donc
comme
si
ça
je
tout est
comprends
bien
bien,
indiqué dedans dans la fiche. Et
D'accord. Donc
cette
si je comprends
fiche,
bien, oui.
oui?
Donc si je
Oui?
comprends bien, tout se fait à partir de l'internet, mais il n'y a pas de contact
Non.
direct dans un
Non, non,
premier
non,
temps
non.
qu'on peut
Ce que je
avoir.
vous ai
Supposons,
expliqué.
je vous donne un exemple, Monsieur Barry. Je suis au
Oui.
Royaume-Uni, je vais adhérer au parti, ou bien je suis en Irlande, je vais adhérer au parti. Est-ce qu'il existe moyen d'entrer en contact avec vous directement, ou bien il faut que je remplisse la fiche dans un premier temps avant de discuter avec quelqu'un
Non, naturellement, vous pouvez toujours rentrer en contact. Actuellement, c'est ce qui s'est fait. Il y a beaucoup de
OK.
personnes qui sont rentrées en contact avec nous de l'Italie, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada et de Norvège. Mais ces personnes, c'est moi qui leur ai donné l'information par rapport aux fiches d'inscription. Vous comprenez?
D'accord.
Mais c'est qu'on peut, il suffit de se mettre en contact avec nous, on indiquera directement à la personne la démarche à faire.
Assure.
Donc la fiche d'inscription,
D'accord.
ce n'est pas seulement sur l'Internet. Nous avons mis sur Internet pour rentrer, pour faciliter l'accès du public à la fiche. Mais cette fiche, vous pouvez l'avoir auprès de chaque organe du parti. Par exemple, en Allemagne, maintenant, l'organe qui est mis en place en Allemagne, c'est la Fédération allemande, elle a les fiches là-bas. Elle peut, vous pouvez vous en procurer directement à partir du bureau
D'accord.
de l'Allemagne, mais
OK.
vous pouvez, sans aller voir un bureau quelconque, vous pouvez aussi directement vous en procurer en appelant un responsable du parti. Il va vous indiquer où vous pouvez trouver, parce qu'aujourd'hui tout le monde a accès à Facebook, tout le monde a accès à l'Internet, surtout à l'extérieur, ou même en Guinée. Écoutez, moi, il y a des gens qui nous ont appelés de Balato, à Siguiri, dans un village de Siguiri. Il y a des gens qui nous appellent sur Facebook et autres, qui nous contactent et qui ont téléchargé le formulaire depuis Balato, un village de Siguiri. Donc, vous pouvez, partout où vous vous trouvez aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à ces formulaires, soit directement par un membre du bureau local, ou bien, si vous voulez, par l'Internet, par la voie publique. Vous pouvez l'avoir et vous
D'accord.
remplissez. Et l'importance de ces fiches, c'est que nous avons besoin de faire des statistiques, de connaître d'abord les membres, parce que si vous remplissez la fiche, et vous payez votre carte le prix de la carte de membre, automatiquement, vous avez une carte de membre qui atteste votre appartenance au parti. C'est ce qui est surtout le plus important, la carte de membre. Parce que nous, ça nous permet de connaître combien de militants, combien de membres nous avons, mais de connaître aussi le profil des personnes que nous avons. Parce que en Guinée, actuellement, les partis ne sont pas bien organisés. Si vous voyez, si on veut choisir quelqu'un à la CENI, on veut donner un poste à quelqu'un, les gens regardent dans leur entourage direct, c'est leurs parents, c'est leurs beaux-frères, c'est leurs belles-sœurs, direct, parce que le parti n'a pas un répertoire de personnes ressources. Alors, d'accord, il faut avoir un répertoire de personnes ressources où vous pouvez classifier les gens selon leur profession, selon leurs compétences. Et donc, si vous avez besoin de quelqu'un qui doit jouer un rôle technique, qui doit aller à la CENI, qui doit participer à quelque chose lié à la santé, tout de suite, vous regardez là-bas, dans ce répertoire, dans la banque de données, toutes les personnes qui correspondent à ce profil, qui ont ce profil, vous prenez là-bas et vous choisissez selon le critère de compétence et d'expérience que les gens peuvent avoir. Voilà, c'est ce que nous avons décidé de faire, à l'image de ce qui existe dans les pays organisés.
D'accord. Donc, ce qui peut vous permettre, par exemple, de constituer des équipes techniques dans les différents domaines, quand il s'agit, par exemple, d'une question juridique à l'Assemblée nationale ou d'une question d'ordre financier, la loi des finances, le budget, des personnes spécialisées pour analyser. Et là, je vous l'accorde, hein, c'est ce qui manque beaucoup à beaucoup de parties, justement en Afrique, pas seulement en Guinée, en Afrique, justement. Et je pense que c'est déjà une bonne démarche. Monsieur Barry, quand on parle aujourd'hui de configuration politique actuelle en Guinée, avez-vous votre choix? Avez-vous fait votre choix pour d'éventuelles alliances?
Oui, mais pourquoi dès qu'un parti se crée, il faut tout de suite penser à une question d'alliance? Je ne comprends pas. On fait une alliance quand on va à un second tour de la présidentielle, en principe. C'est quand on doit aller au second tour de la présidentielle, les autres concurrents sont éliminés, ceux qui restent choisissent maintenant des partis qui peuvent constituer une alliance derrière l'un des deux candidats. C'est ce qui se doit. Mais on ne va pas créer tout de suite un parti pour aller dans une alliance. Ça veut dire que les gens qui cherchent juste Barry, à participer au partage de quelque chose.
Monsieur Barry, je veux dire actuellement, on a l'opposition républicaine, l'opposition plurielle, il y a la mouvance. Vous vous sentez beaucoup plus proche de quel bloc?
Écoutez, nous avons décidé de mettre un parti, de créer notre propre parti, parce que la politique actuelle, la gouvernance actuelle ne nous convient pas. Et c'est contre ça que nous avons décidé d'apporter des propositions alternatives. Et dans ce cas-là, et nous n'apprécions pas non plus les hésitations et les faux pas répétés et constants de l'opposition actuelle. Alors nous avons décidé de créer un parti politique qui peut offrir une véritable alternative d'opposition. Nous sommes un parti d'opposition.
D'accord. Merci, M. Barry. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent sur Zeno Live, c'est l'étoile, c'est le chiffre 5 qu'il faut appuyer sur votre écran qui vous permet d'avoir, de pouvoir prendre la parole sur l'antenne. Et pour ceux qui sont, disons, corrects directement sur la radio, c'est étoile 61 qu'il faut faire sur votre téléphone aussi pour pouvoir prendre la parole. Et ceux qui nous écoutent sur Radio Musidal, c'est le même principe. Par exemple, vous pouvez aussi formuler vos questions sur Facebook, sur notre groupe Vibe et bien d'autres aussi, pour pouvoir prendre la parole. Tout à l'heure, nous allons passer aux auditeurs dans quelques minutes pour échanger aussi avec vous, chers auditeurs. Et je reviens à M. Barry. Je rappelle qu'on a M. Barry ce soir, Sadio Barry, le leader du Bloc pour l'alternance en Guinée, avec qui nous échangeons sur le nouveau parti politique qu'ils ont créé et surtout aussi sur l'actualité politique en Guinée de façon générale. Monsieur Barry, aujourd'hui, quelle est la particularité du Bloc pour l'alternance en Guinée par rapport aux autres partis politiques en Guinée?
Notre particularité par rapport aux autres partis en Guinée est que nous, le BAG, se bat pour le meilleur. Le BAG n'est pas prêt à aller dans n'importe quelle compromission. Le BAG refusera de faire fi à la loi, de contourner la loi pour faire des compromis et de nature à se partager des choses, des avantages et des postes, mais au détriment de la concurrence loyale et de la démocratie. Le BAG refusera cela. Et donc, nous visons un objectif et nous y resterons fidèles. Ce sera la particularité du BAG.
D'accord. Parlez-nous de grandes lignes de votre projet de société.
Bon, vous savez, le projet de société, c'est bien, naturellement, qu'un parti ait un projet de société. Mais d'abord, moi, je vous dis une chose. La plupart des partis politiques qui sévissent en Guinée, y compris le parti d'Alpha, ils n'avaient pas proprement dit un projet de société quand ils ont accédé au pouvoir. Hein. Et ils ont essayé de nous présenter là-bas une forme de projet de société, par exemple du RPG, le projet de société de l'UFDG. On nous a présenté quelques séquences de cela. Mais dans le projet que Alpha Condé a présenté aux Guinéens, j'ai lu des passages suivants. Le RPG prévoit de consacrer sa gouvernance à la promotion et à la promotion des jeunes et des femmes, à la promotion de la paix et de l'unité nationale, et ainsi de suite. Bon. Vous avez vu ce que la gouvernance du RPG, c'est à quoi cela a conduit. Parce que dès que M. Alpha Condé est arrivé au pouvoir, la première des choses qu'il a eu à faire, c'est tout de suite débloquer 3 milliards et demi pour la création de l'organisation Mandin Dialon, qui s'est donné pour objectif de chasser les peuls du Fouta. A été la première action politique d'Alpha Condé, c'est de légaliser, faire légaliser direct, d'abord créer Mandin Dialon, soutenir politiquement et financièrement Mandin Dialon et créer ce qu'on appelle le mouvement, c'est-à-dire l'union des Rundais contre la communauté Peul. Mais écoutez, c'est tout diamétralement opposé à ce qu'il nous a présenté comme projet de société, vous le savez bien. Aussi, et nous avons vu Alpha Condé au mois de mai 2015 tire à Cancan que maintenant son second mandat sera consacré aux jeunes et aux femmes. C'est ce qu'il avait promis pour le premier mandat. Et il ne l'a pas fait. Il a reconnu qu'il a eu beaucoup de choses et il ne l'a pas fait. Maintenant, le second mandat, c'est les jeunes et les femmes. Parce que les jeunes et les femmes, c'est toujours le plus grand électorat de la Guinée. Eh bien, je voudrais vous dire une chose. Il ne faut jamais se focaliser sur le projet de société. Pour une simple raison, le projet de société n'a de valeur que si celui qui est au pouvoir a une certaine décence morale, si celui qui est au pouvoir a de la parole, si c'est quelqu'un dont l'engagement n'a pas de valeur, si c'est quelqu'un qui ne tient pas sa parole, tout ce qu'il vous présente comme projet de société, c'est de la parole vaine. Je ne vois pas pour quelle raison les Guinéens s'accrochent trop à ça. Ça ne veut rien dire ici. Essayez de choisir quelqu'un que vous connaissez plus ou moins correct, que vous connaissez digne de sa parole. Eh bien, vous ne serez pas déçu. Mais nous vous dirons une chose. Notre objectif principal ici, c'est de faire de la Guinée un état de droit et une nation démocratique. C'est mettre en place un plan de développement économique, environnemental et social. C'est mettre fin aux inégalités et aux injustices sociales. Contribuer à la paix ainsi qu'à la sécurité sous-régionale africaine et mondiale. Ce sont les points fondamentaux qui nous motivent dans notre engagement politique. Permettre aux Guinéens d'avoir une vie décente, d'avoir accès à la santé, aux soins de santé, à l'eau potable et à l'électricité, à la sécurité. Ce sont les lignes de conduite de notre projet de société. Merci.
D'accord. À la place du président Alpha Condé ou du chef de file de l'opposition, Selouna Diallo, qu'auriez fait Sadio Barry?
Monsieur Ba, excusez-moi. Vous savez, je ne suis ni à la place de celle d'Alain Diallo, ni à celle d'Alpha Condé. Et pas encore, du moins. Quand je serai à leur place, j'aviserai à ce moment-là de ce que je vais faire et je démontrerai ce que je suis capable de faire. Par contre, notre objectif est justement d'être à leur place. Aux prochaines législatives, en ce qui concerne le chef de file de l'opposition, c'est Alain Diallo, et à la prochaine présidentielle, en ce qui concerne le président de la République, Alpha Condé. Nous voulons être à la place de Selou à partir des prochaines législatives et nous voulons être à la place de Alpha Condé à partir de la prochaine présidentielle en Guinée. Et pour le moment, d'ici là, je préfère ne pas trop m'aventurer sur ce que je vais faire à leur place ou bien j'aurais fait à leur place. Et vous me direz pourquoi? Justement, parce que Alpha Condé a été démocratiquement élu, comme ils aiment le dire, pour prendre en charge la gestion de l'administration du pays. C'est donc à lui qu'on a confié la charge de régler les problèmes du pays. Il a dit qu'il est capable de le faire, il a promis beaucoup de choses, et bien les gens lui ont confié cette responsabilité. Le peuple, selon lui, selon ses dires, et selon la communauté internationale, le peuple a confié la gestion du pays à Alpha Condé, comme il l'avait demandé. Eh bien, de l'autre côté, et d'abord, toujours parlant de Alpha Condé, il a donc tous les pouvoirs, il a tous les moyens de l'État, et il nomme qui il veut à tous les postes. De l'autre côté, nous avons Selouna Alain Diallo, en tant que chef de file de l'opposition, qui a toute la latitude de dénoncer, de critiquer et de s'opposer par des moyens légaux que la Constitution met à sa disposition et comme par des actions parlementaires ou des actions juridiques qui doivent être appuyées par l'appel au peuple et des pressions de rue. Il a la latitude de s'opposer à Alpha Condé, de jouer pleinement son rôle et en dirigeant l'opposition naturellement. Mais visiblement, tous les deux ont failli. Et tous les deux se caractérisent par une incompétence et un autoritarisme à conséquences mortelles pour le peuple de Guinée. On ne vient pas à la tête de l'État ou à la tête de l'opposition et où on a la vie de la nation à main pour apprendre. En politique, si quelqu'un est incompétent, on ne cherche pas à l'améliorer. C'est perdre du temps. Il faut simplement le remplacer. Ou ils sont capables ou ils ne sont pas capables. S'ils ne sont pas capables, on les remplace. S'ils sont capables, on les renouvelle notre confiance. Eh bien, on ne cherche pas à l'améliorer. On ne cherche pas à l'aider. On ne cherche pas à s'accommoder de lui ou à collaborer avec le système corrompu qu'il a mis en place. Cela est généralement propre aux opportunistes, chercheurs de postes ou d'intérêts personnels. C'est tout. Sinon, quelqu'un, un responsable politique qui est incompétent, qui a failli à sa mission, mais on le démet de ses fonctions, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut procéder. Nous, au BAG, nous sommes de l'opposition. Nous connaissons nos prérogatives et notre mission. Nous proposons des solutions alternatives à la politique de la majorité en place et à l'amateurisme et aux tergiversations du chef de file de l'opposition actuelle. Soyez-en absolument certains, monsieur Pa. Et je le dis à tous mes compatriotes guinéens, si les Guinéens me mettent à la place de Selouna Alain Diallo aux prochaines législatives, c'est-à-dire en votant massivement pour le BAG, pour que le BAG soit la première force politique au Parlement, il n'y aura aucun doute que je serai à la place d'Alpha Condé à la prochaine présidentielle. Ceux qui en ont marre du statu quo actuel et de la mauvaise gouvernance, ceux qui se soucient de l'avenir du pays et qui aspirent à un véritable changement démocratique, qu'il soit du RPG, qu'il soit de l'UFDG ou d'un autre parti politique, ils doivent simplement voter le BAG aux prochaines législatives. Ils auront la solution.
D'accord. Que
Merci.
pensez-vous du dialogue politique, monsieur Barry?
Oui, mais le dialogue politique, c'est pourquoi? Selon vous, tous ces dialogues politiques-là, c'est pourquoi nous avons un État. Il y a une constitution. Nous avons des lois. Des lois sur la CENI, des lois sur les partis politiques et qui définissent les échéances électorales, qui définissent quels sont des organes administratifs qui doivent être élus, qui doivent émaner de la volonté du peuple ou pas. Et parce que le grand problème entre l'opposition et le pouvoir, tout le dialogue entre l'opposition et le pouvoir, c'est généralement lié à des questions d'élection. À des questions d'élection. Le problème de poste, c'est-à-dire des communales, le problème du Parlement, le problème de la présidentielle. Mais il y a des lois qui ont déjà réglementé tout ça. Pourquoi le pouvoir ne veut pas respecter la loi, les lois, appliquer simplement les lois qui existent? Pourquoi? Et pourquoi l'opposition accepte de venir à des dialogues dont le seul sens, le seul but, c'est de contourner ce qui est écrit par la loi, dont le seul sens, le seul but, c'est de contourner la loi, faire des raccommodages qui arrangent le pouvoir en place? Pour quelle raison? Écoutez, le seul dialogue qu'on peut avoir, normalement, dans un pays où tout est réglementé, c'est quand des imprévus se posent, ou bien s'il faut s'entendre, si les dates précises d'une échéance électorale ne sont pas définies, eh bien, l'opposition, le pouvoir s'entendent et se retrouvent pour essayer de réfléchir, pour trouver une date consensuelle. Ou bien, il y a une date, il y a une échéance qui est bel et bien prévue par la loi, mais à ce moment, il y a une catastrophe naturelle, il y a des problèmes imprévus d'ordre national qui se posent. Eh bien, l'opposition et le pouvoir se retrouvent pour trouver un consensus afin de repousser l'échéance électorale en question à une date ultérieure. Mais tout le reste, c'est défini par la loi, c'est réglementé, mais ils n'ont qu'à appliquer la loi.
Merci, Monsieur Barry. Allez-vous participer aux futures échéances électorales?
Allô?
Allez-vous participer aux futures échéances électorales?
C'est l'objectif que nous visons.
D'accord. D'accord. Êtes-vous prêt actuellement pour participer au communal, au communautaire?
Bon, nous ne connaissons pas encore quand est-ce exactement ces communales vont avoir lieu. Mais je vous rappelle que notre parti n'a pas encore 2 mois d'existence. Donc nous sommes en phase d'implantation. Et il est évident que si les communales ont lieu dans la précipitation, bien sûr, on ne peut pas dire précipitation parce que ça fait plus de 10 ans que ces communales sont repoussées. Mais si les communales ont lieu avant que nous ne finissions d'installer nos différents organes dans le pays, naturellement, on ne pourra pas. Et surtout, sans que nous ne. Ils en modifient les contours et les conditions, sans que nous, on ne participe à cela, eh bien, nous ne pourrions pas y participer dans ce cas-là. Mais attendons de voir. Notre objectif, en tout cas, c'est de prendre part aux élections. C'est pour cela que le parti est en train de se mettre en place aussi rapidement possible.
D'accord. Une dernière question, Monsieur Barry, avant de passer aux auditeurs qui sont nombreux en ligne déjà qui attendent. On sait qu'actuellement, le Bloc libéral a eu beaucoup de difficultés à obtenir son agrément. Est-ce que vous avez eu votre agrément au niveau de la Guinée? Est-ce que vous avez eu des difficultés ou ça a été quasiment un processus normal et vous avez obtenu l'agrément juste comme ça?
Bon, ça, c'est une très bonne question. Vous savez très bien que quand le Bloc libéral a essayé de s'enregistrer, naturellement, Faya était déjà fiché par les autorités, il était sur le terrain, il faisait déjà peur de par sa présence. On a donc voulu empêcher Faya à obtenir la possibilité, le droit de participer tant au dialogue politique qu'aux échéances électorales, et c'est-à-dire de participer à l'animation de la vie politique en Guinée. Aujourd'hui, les choses sont un peu, on est un peu loin des échéances qui mettent directement l'intérêt de Alpha Condé en jeu. Nous avons essayé, dans une certaine mesure, de ne pas trop attirer l'attention sur nous au moment où on faisait des démarches. On a fait les démarches. Nous avons aussi procédé à des démarches qu'aucun autre n'avait fait avant. Parce que si vous partez en Guinée, vous voulez vous enregistrer comme parti politique depuis que le RPG est là. Ce n'était pas comme ça avec le régime de l'Ansana Conté. Ce régime de l'Ansana Conté était militaire, mais ils avaient beaucoup plus de sens de la responsabilité administrative. C'était des gens qui ont beaucoup plus le sens de l'État. Ils peuvent ne pas t'aimer, mais quand tu remplis les conditions, tu demandes l'agrément d'un parti, ils te laissent directement enregistrer ton parti sans problème. Conté a laissé, tous ses ennemis étaient déclarés avant qu'il n'ait un parti légal en Guinée. Tous ses ennemis, tous les adversaires de Conté, à commencer par Alpha Condé, ils étaient connus. Ils sont venus, ils ont enregistré les partis, tout. Conté n'a fait d'obstacle à personne. Ce que le RPG est en train de faire aujourd'hui, c'est quand même étonnant de vivre cela de la part d'un parti politique qui s'est battu, qui dit s'être battu pendant 40 ans pour l'avènement de la démocratie en Guinée. Eux, depuis qu'ils sont venus au pouvoir, ils ont essayé de verrouiller, ils ne veulent pas de concurrence. Il a d'abord demandé tous ceux qui se sont alliés, qui l'ont aidé au second tour en 2010, il a essayé d'imposer à ces gens-là de dissoudre leur parti dans son parti à lui. Donc il a voulu exactement suivre les pas du PDG, c'est-à-dire transformer la Guinée en un parti unique. Et comme ça, il sera en face uniquement du parti adversaire, c'est-à-dire l'UFDG. Si l'UFDG n'accepte pas de le rejoindre, parce qu'il l'avait proposé, hein, si l'UFDG ne le rejoint pas, il va simplement éliminer ce parti. Et comme ça, nous revenons à l'état de parti unique en Guinée. C'est ça, malheureusement, c'est ce que le RPG a essayé d'engager en Guinée. Ils ont en même temps refusé de reconnaître ceux qui demandent un agrément de leur parti. Alors, les gens viennent, ils déposent les dossiers pour un agrément du parti. On refuse même de leur donner, c'est-à-dire les preuves qu'ils ont essayé, c'est-à-dire qu'ils se sont enregistrés comme parti politique. Même ça, l'État refuse de te donner. Eh bien, nous, on a essayé de procéder autrement. Nous avons engagé des avocats et des huissiers pour nous étudier la loi intégralement. Nous avons suivi la loi au pied de la lettre et nous nous sommes fait accompagner par des juristes spécialistes pour aller enregistrer le parti dans des conditions établies par la loi et qui ont exigé aussi que l'État leur donne la décharge correspondante. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de difficultés, nous avons obtenu nos décharges correspondantes. Nous avons enregistré officiellement le parti et on a remis la décharge aux juristes qui s'en sont occupés. Voilà. D'accord. Maintenant, les difficultés, ça peut toujours venir parce qu'on a vu des moments où, par exemple, c'est-à-dire vers la fin de 2011, on a vu le chef, c'est-à-dire l'adversaire de Alpha Condé, c'est Loudalin Diallo, il est venu jusqu'à Dakar, il a dit qu'il ne rentre plus en Guinée. Si Alpha Condé ne lui donne pas les garanties de sa sécurité, il ne va plus rentrer en Guinée. Il l'a dit clairement. Il y a eu des négociations pour que Sélou ait le droit après de rentrer en Guinée. Vous comprenez? Donc, l'État peut toujours faire des difficultés à quelqu'un à n'importe quel moment. Mais nous allons nous conformer à la loi. C'est lui qui essaie de violer la loi pour violer nos droits. Eh bien, lui, il aura affaire à nous. Ça, je vous le dis. Et c'est lui qui abuse de son pouvoir en Guinée pour nous empêcher de marcher en Guinée. Nous, on va lui donner le dégoût de venir à l'extérieur aussi.
D'accord. C'est un peu la politique congolaise. Hein. Merci, M. Barry. Permettez-moi, dans quelques secondes, on va passer aux auditeurs qui sont nombreux en ligne. Il y a pas mal de questions qui restent à poser à M. Barry, hein, mais on va permettre aussi aux auditeurs de revenir certaines questions. On va pas épuiser toutes les questions. Restez avec nous, chers auditeurs. Je rappelle que vous êtes dans l'émission Rendez-vous du Grand Débat et vous nous suivez des quatre coins du monde. Ceux qui nous suivent, par exemple, sur notre application Zeno Live, Radio Afianu sur Zeno Live, c'est le chiffre 5 qu'il faut appuyer sur votre téléphone. Pour ceux qui sont en ligne, déjà, vous connaissez le principe. Restez avec nous. On va ouvrir le micro tout à l'heure à tour de rôle aux auditeurs qui sont de quatre coins du monde qui nous suivent tout à l'heure. Merci.
Bienvenue sur votre radio Afia News. Afia News, c'est vendredi, 20h30, Conakry, dans Bédouen Diren avec Alpha Souleymane. Samedi, 20h, dans Savoir et Comprendre, avec Ibrahima Ahmed. Et dimanche, 20h, dans Rendez-vous du Grand Débat, avec Mamadou Rassoun.
Merci, chers auditeurs, pour votre patience, pour votre fidélité. On va ouvrir le micro aux auditeurs qui nous suivent en ligne. On va aller par ordre d'arrivée. Hein. Je vais commencer par la France. Je pense que c'est le 296. Et on va demander à tout le monde, hein, à tous les auditeurs, je vous prie d'être très court, très bref dans votre question, parce que vous êtes nombreux à vouloir intervenir. Donc, on ne pourra pas passer assez de temps avec chaque auditeur pour permettre aux autres aussi de pouvoir intervenir. Merci pour votre compréhension. Bonsoir.
Oui,
allô, vous me suivez? Comment allez-vous?
Oui, je vais bien, c'est Monsieur Gafounou, je vous ai appelé tout à l'heure, après j'ai changé de téléphone.
D'accord, sur l'application Zeno Live, vous êtes maintenant en direct sur Afianus. Oui. Oui. Vous avez une question pour
oui,
Monsieur Barry?
Bonsoir Monsieur Barry.
Bonsoir Monsieur, vous allez bien?
Oui, ça va, c'est toujours un plaisir qu'il y ait des personnes, des nouvelles personnes dans le débat politique, même si Monsieur Sadio Barry, en tant que citoyen guinéen n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, il est responsable d'une formation politique. Ça, c'est quelque chose que je salue, je l'encourage et félicitations déjà pour ce travail. J'ai un certain nombre de questions que je voudrais lui poser. Monsieur Sadio Barry, en suivant un peu son parcours, il a soutenu, quand il était étudiant, Alpha Condé. À un moment de sa vie, il a soutenu Baoury, il a soutenu Seydou d'Alain Diallo, il a soutenu Sada Kadi, il a soutenu Baba Diko. Aujourd'hui, M. Sadio roule pour lui-même. Comment il peut nous convaincre, durant toute sa vie, il soutient un candidat, puis un autre, puis un autre. Ça veut dire, à chaque moment, il se trompait sur le candidat. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends M. Barry dénoncer les travers de, à juste titre d'ailleurs, de l'opposition guinéenne en la personne de Seydou d'Alain et de la mouvance qui est Alpha Condé, je pense qu'on n'a pas envie de regarder les deux. Et sauf que lui, à un moment de sa vie, il a soutenu l'un de ces deux candidats. Je ne parlerai même pas de Sada Kadi, dont il a vanté les mérites à la fin, qui s'est retrouvé dans les bras de Alpha Condé. Comment il peut nous donner la confiance aujourd'hui? On peut l'apporter notre suffrage, sachant que lui-même, il s'est trompé à plusieurs reprises sur les hommes politiques guinéens. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est de savoir, aujourd'hui, M. Sadio Barry a une formation politique qui aspire à diriger en Guinée. Mais sauf que, quand on a une formation politique en Guinée, nous le savions tous que les militants ne cotisent pas, d'une manière générale. Les militants ne cotisent pas, donc généralement, c'est le chef de parti qui est en même temps le bailleur, ou d'une autre façon, il trouve l'argent qu'on ne sait plus. Je voudrais savoir, M. Sadio Barry veut faire la politique autrement, comme il nous laisse entendre, comment il finance son parti? Ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième et dernière question, je pense qu'il avait commencé à répondre à cette question, c'était de savoir comment il compte influencer la politique guinéenne, sachant que lui vit en Europe et la plupart de ses amis avec lesquels il a eu à créer cette formation, vivre hors de la Guinée, alors que la situation, en réalité, se passe sur le territoire national. Les différentes fédérations qu'ils comptent installer en Angola, au Sénégal ou ailleurs, c'est bien, il y a des compatriotes qui sont dans ces pays, mais il connaît le fichier électoral mieux que moi, il sait que ces gens-là ne représentent peut-être même pas 10% du corps électoral guinéen. Donc, il est obligatoire qu'il faut qu'il s'installe en Guinée. Pas forcément lui. Il faut que le parti soit implanté en Guinée. Comment il compte faire ça? Ce sont ces trois questions. Je vous remercie, monsieur.
D'accord, merci. C'est M. Diaoun depuis la France. Allez-y, M. Barry.
Ouais, je remercie M. Diaoun pour ces questions très, très pertinentes. Et je voudrais d'abord, pour commencer, dire à M. Diaoun de ne pas confondre deux choses. Être trompé et se tromper. Vous comprenez? M. Diaoun doit faire la part des choses entre les deux. C'est quelqu'un qui se trompe et quelqu'un qu'on trompe. Vous pouvez contrôler votre attitude, vos engagements. Vous êtes responsable de vos engagements. Mais vous n'êtes pas responsable de ceux qui ne tiennent pas leurs engagements envers vous. Et ainsi, je voudrais dire, c'est vrai que j'ai soutenu Alpha Condé et son mouvement RPG. J'ai fait partie de ceux qui ont aidé à la création et à l'installation de certaines cellules de base et des sections du RPG, notamment à Conakry et comme à Fria, ou à l'intérieur même, vers la Haute-Guinée. J'étais jeune à l'époque. Je n'étais pas leader. J'étais jeune, mais j'avais un idéal pour la Guinée. Ceux-là que l'on appelle des aînés, des diplômés, qui se sont publiquement et officiellement déclarés contre la dictature, qui ont dit qu'ils viennent pour se battre pour l'état de droit et pour la démocratie, eh bien, pour le respect de la population guinéenne, pour un minimum de vie décente des populations guinéennes, contre la corruption et la gabegie, les détournements et le pillage. Mais ces gens-là, à ces aînés, moi, je ne pouvais pas autre chose que me joindre à ces gens. Je n'étais pas leader, je ne pouvais pas être leader, mais si je ne veux pas être indifférent à la situation du pays, je ne peux que me joindre à ceux qui se battent sur le terrain. À l'époque, c'était Alpha Condé, c'était Sirajo, c'était Bamamadou, c'était les Jean-Marie Doré. Parmi tous, Alpha Condé a été le premier à décider d'organiser directement un meeting qui défie en même temps le régime militaire à l'époque, parce que ces choses pareilles n'ont jamais existé en Guinée. Il a décidé d'organiser un meeting en défiant le régime militaire. Et quand cela, il a annoncé cela, et il a essayé de prendre contact avec des jeunes étudiants. Et j'ai été le premier avec Abdoulaye Keita qui l'a contacté. Mais écoutez, nous on était vraiment embobinés, on était contents d'avoir enfin quelqu'un qui est prêt à prendre des risques et à lutter pour que les choses changent dans notre pays. Eh bien, on l'a soutenu. Nous l'avons aidé à installer, à implanter le parti. Lorsque j'ai été déçu, j'ai constaté que dans ce parti, et ça à l'époque, ce n'était pas par rapport à Alpha, j'ai simplement constaté au niveau de la direction nationale des décisions et des pratiques que j'ai vues, j'ai compris que ce parti ne répondait pas à mes aspirations. Et je vous le dis, j'ai prévenu Alpha. J'ai décidé de démissionner du parti. Quand j'ai démissionné du parti, Alpha Condé il a d'abord rejeté ma démission. Il a envoyé Sékou Souapé Kourouma pour me parler. Il m'a dit qu'il faut que je reste. Et alors j'ai dit à Alpha, ce parti-là, il a été pris déjà en otage par des extrémistes et racistes, régionalistes et ethnocentristes. Dangereux pour la Guinée. J'ai dit, si toi, Alpha, tu veux l'intérêt de la Guinée, je te conseille, renonce de porter le RPG au pouvoir en Guinée. Si le RPG vient au pouvoir en Guinée, l'ethnocentrisme, la division régionaliste vont être institutionnalisés dans ce pays. La dictature et les exécutions sommaires, c'est-à-dire extrajudiciaires, vont revenir dans notre pays. C'est ce que j'ai dit à Alpha à l'époque. C'est pourquoi moi j'ai dit je ne reviens plus dans ce parti. Parce que j'ai vu tout de suite ce parti aller conduire la Guinée à où? Vous voyez, et aujourd'hui, si vous êtes objectif, si vous observez bien ce qui se passe, vous allez reconnaître que le RPG et a été le régime RPG nous a fait un recul. C'est un recul de la démocratie en Guinée par rapport au temps de Lansana Conté, par rapport à ce que Lansana Conté a laissé. Le RPG nous a remis en retard. Et la division, la déchirure du tissu national aujourd'hui, je n'ai pas à vous expliquer, vous le savez. C'est d'ailleurs le BAG actuellement dans ses démarches de ce début même qui est en train petit à petit de poser des conditions, c'est-à-dire de réparation de cette déchirure du tissu national en Guinée. Maintenant, j'ai soutenu Bawori, c'est vrai. Mais Bawori, il était de l'opposition. Il fait partie des premières personnes à créer quelque chose qui se bat non pas pour leur intérêt à eux, mais pour l'intérêt des Guinéens dans leur ensemble. Les Bawori ont été les fondateurs de l'OGTS, Bawori et Dr So. Ils ont fondé la première organisation des droits de l'homme en Guinée. À un moment où on ne pouvait même pas y penser, ils ont pris tous les risques. Et cela, cette lutte, ce n'était même pas un parti politique. Ils n'avaient rien à gagner, parce que si tu crées une organisation des droits de l'homme, tu te bats pour les droits des autres, ceux qu'on arrête, les prisonniers, tu dénonces le fait qu'on arrête les gens, le fait qu'on emprisonne les gens sans jugement, tu dénonces ça, tu te bats et pour le droit même des opposants, tels que les Alpha Condé à l'époque. Mais tu n'avais rien à gagner avec le pouvoir, même si tu avais un travail, tu avais une fonction, mais on allait te mettre à la porte. Mais les Bawori ont pris ce risque à l'époque. Vous voulez qu'on ne soutienne pas ce genre de personnes? La lutte qu'il menait n'était pas pour lui-même, c'était pour le peuple guinéen. Eh bien, ça correspondait à ce que nous voulons. Nous avons soutenu tous ceux qui se sont battus, qui disaient se battre pour le changement démocratique en Guinée, tous les aînés. C'est maintenant que nous avons constaté que parmi tous ceux qui se battaient, il n'y avait pas toujours l'intérêt de la Guinée en réalité, comme ils le disaient. Et à commencer par Alpha Condé, c'était des gens qui se battaient pour l'intérêt personnel. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Alpha. Il est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis toute sa lutte. Si vous voyez que la population mandingue en Guinée a, dans son ensemble, préféré Alpha Condé au fils même de leur région. Alors, c'est parce qu'il avait promis de mettre fin au système Condé. Il a même promis de poursuivre et les anciens du régime Condé qui ont commis des crimes de sang et des crimes économiques. Mais dès qu'il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, même ceux-là que le CNDD avait réussi à écarter, Alpha a ramené tout le monde. Il a restauré le régime PIP dans son ensemble. Il n'y a que Sellou Dalin qui manquait. Et tout récemment, il a tendu la main à Sellou. Il a dit, mais je te crée carrément un poste où toi aussi tu vas gagner ta part. Et Sellou dit qu'il est prêt. Lui aussi, il a accepté. Donc finalement, aujourd'hui, il a ramené le régime Conté dans son ensemble autour de lui. Qui sont les perdants? C'est nous qui nous battions à l'époque derrière Alpha Condé contre le régime que les Sellou Dalin, les Kassori Fofana représentaient. C'est nous qui continuons aujourd'hui à nous battre. Eux, ils sont encore là. C'est eux qui profitent. Eh bien, c'est là. Le fait que j'ai eu à soutenir ceux qui se battaient avant pour le changement, ceux qui disaient qu'ils se battaient pour le changement, cela n'est pas un crime. On ne peut pas me le reprocher. J'étais jeune. J'ai cru aux aînés. Je les ai soutenus. Ils ont dévié, ils ont trahi. L'essentiel est que moi, je ne les suis pas dans leur égarement. Voilà. Et maintenant, par rapport au financement du parti, c'est vrai qu'on dit pour faire de la politique, maintenant, c'est de l'argent. C'est dommage parce que avant, chez nous, en Afrique et partout dans le monde, au moment où le monde avait les mœurs étaient encore, avaient de la valeur, l'être humain avait de la valeur, en ce moment-là, ce n'était pas forcément le plus riche qui avait la chance d'être, c'est-à-dire au poste le plus élevé, qui avait la chance de présider aux destinées d'une nation. Il y avait d'autres critères qui comptaient. Pour être responsable, il y avait d'autres critères qui comptaient. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ceux-là qui ont dirigé nos pays dans le passé, ils ont réussi à créer un système, une forme de système d'esclavagiste qui maintiennent des gens dans des classes sociales prédéfinies. Eux, ils ont détruit l'enseignement chez nous en mettant leurs enfants dans des écoles de qualité à l'extérieur. Quand ils tombent, ils ont détruit le système de santé chez nous en venant soigner même les maux de tête ou les maux de ventre. Dès qu'ils ont un petit problème, eux et leurs enfants, ils viennent les soigner à l'extérieur aux frais de l'État. Nous les autres, et ils définissent pour être même candidat, pour avoir un parti politique et être candidat à une élection, ils mettent la caution si haut que si tu n'as pas été un ancien ministre en Guinée, tu ne peux plus participer à une élection. Si tu n'as pas été un ancien ministre, donc qui a participé à piller l'économie, les caisses de l'État, à ton profit, à toi et à ta famille, au détriment du peuple de Guinée, si tu n'as pas été cela et tu n'es pas derrière le président actuel qui te donne l'argent pour que tu puisses te présenter pour la forme, pour le cautionner, tu ne peux plus faire de la politique en Guinée. Et maintenant, vous avez vu, même pour être, c'est-à-dire chef de quartier, les chefs locaux des élections communes, c'est-à-dire locales, communautaires, ils ont fixé la caution minimale, c'est 5 millions. Mais Éloi, quittez Conakry, allez-y à Mandiana, allez-y dans les régions du Fouta ou de la forêt, c'est de prononcer le mot million à quelqu'un là-bas. Un million, ça veut dire beaucoup de choses. On demande aux gens de donner une caution de 5 millions pour pouvoir avoir une candidature validée. Et écoutez, ce que les gens-là ont mis en place, le système qu'ils ont essayé de mettre en place en Guinée, c'est de garder le monopole de la gestion du pays. Ils vont continuer à avoir la même mise sur les ressources du pays, eux seulement. Quand eux, ils passent, c'est leurs enfants qui prennent.
D'accord.
Donc, nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de briser cela. Il faut refuser que quelqu'un soit millionnaire ou ancien ministre pour avoir le droit d'avoir un parti politique, de participer à l'animation de la vie politique en Guinée. Et pour cela, le BAG vient en solution. Les élections, pour participer à des élections, pour aller donner sa carte électorale, heureusement, on ne fait pas encore payer les citoyens, s'ils veulent voter, on ne demande pas aux gens de voter pour rentrer dans le bureau de vote. Et donc, nous demandons simplement aux gens, nous battrons avec les moyens qu'on a pour avoir le droit de participer à toutes les activités politiques sans exclusivité en Guinée. Nous demandons à la population, aux pauvres, aux enfants des pauvres, de nous accorder leur voix pour que leurs enfants à eux, bien que nés dans des familles pauvres, pour que leurs enfants à eux puissent aussi rêver être à la place d'Alpha Condé ou à la place de Sélou Dalé demain. Et la troisième question, influencer ou étant à l'extérieur, comment on peut influencer la politique et autres? Je voudrais vous dire une chose. Et en réalité, on peut beaucoup mieux influencer la politique en Guinée étant à l'extérieur que si on est à l'intérieur. Je m'explique. Depuis l'extérieur, on a accès à des informations que ceux qui sont en train même de subir les événements n'ont pas.
D'accord.
Allô, Monsieur Barry, vous voulez dire?
Oui, Monsieur Barry. Maintenant, la question du financement du parti, parce que fonctionnement de tout parti politique nécessite quand même des financements.
Oui.
Comment est-ce que vous organisez?
Le problème ici, nous, oui. Ceux qui vont financer notre parti, ce sont les membres d'abord qui vont financer le parti. Deuxièmement, les partenaires qui vont nous soutenir. Et troisièmement, des sympathisants qui, une fois ont la conviction, ont la foi en ce que nous faisons, ne manqueront pas de nous apporter leur soutien. Je vous dis une chose. Les deux partis qui sont actuellement au sommet de la Guinée, le RPG et l'UFDG, ont bénéficié de beaucoup de financements. Ce ne sont pas des cotisations des membres, ce sont des dons. Des dons à la fois des Guinéens et des partenaires étrangers qui ont financé ces partis-là. Et donc, nous n'allons pas vous dévoiler maintenant ici où est-ce que nous aurons notre financement, non. on n'a pas besoin de le dire. Je vous dis simplement, de la même manière que le RPG a pu obtenir les moyens de sa politique, de la même manière que l'UFDG a pu obtenir les moyens de sa politique, nous allons nous battre aussi pour avoir nos moyens de notre, les moyens de notre politique. Seulement, nous demandons à la population guinéenne de nous accorder son soutien dans l'ensemble, parce que nous, nous allons renverser la pyramide. Nous allons casser ce système qui veut que les Russes restent les maîtres de la situation, c'est eux qui décident de notre destinée, c'est eux qui ont toujours la possibilité encore de bouffer, et que les autres restent toujours derrière la cour, à plus forte raison autour de la table. Nous, nous allons casser ça, nous allons donner à tous les Guinéens la possibilité de rêver, la possibilité d'accéder à n'importe quel poste, à n'importe quelle place, et à n'importe quelle c'est-à-dire institution dans le pays, indépendamment de leur lieu de naissance ou de leur famille de naissance. Nous ferons
d'accord,
tout
merci.
Pour restaurer la légalité des chances pour les Guinéens. C'est ça notre objectif.
Merci. D'accord, merci M. Barry. M. Dune, comprenez-nous, on a beaucoup d'autres auditeurs aussi. Hein. On aurait
oui,
voulu peut-être vous garder un peu plus longtemps.
Question, influence.
Oui.
Voilà,
oui.
Je voudrais dire, c'est-à-dire influencer les choses, la politique à partir de l'extérieur. Je voudrais dire, de l'extérieur, on influence mieux la politique à l'intérieur de notre pays que de l'intérieur, pour des raisons diverses. Un, ceux qui sont à l'extérieur, ils sont mieux informés et instantanément mieux informés et à temps des réalités du pays que ceux qui sont en train de les subir sur place. Ça, c'est un. Et je vous dis, ça, c'est une expérience. Lorsque il y a eu tous les mouvements-là, et je vous dis ça, que ce soit les Alpha Condé, les Sélou Daling, quand ils étaient en Guinée, lorsqu'il y avait des problèmes, parfois c'est nous qui les appelons à partir d'ici pour les prévenir ou pour leur donner certaines informations. Vous comprenez? Et maintenant, de l'autre côté, vous n'êtes pas sans savoir que Alpha Condé a mené toute sa politique à partir de l'extérieur. Il n'a jamais participé à rien en Guinée, à aucun combat sur le terrain. Depuis qu'il est descendu le 17 mai 91 à Conakry, il a voulu défier le régime. Depuis qu'on l'a attrapé une fois en Guinée, il a échappé là-bas, il n'a plus accepté qu'un événement politique le trouve sur place. Il a toujours pris la fuite. La seule fois encore qu'on l'a arrêté après, c'est qu'il était sur le chemin de la fuite. Vous comprenez? Là-bas, en forêt, on l'a attrapé là-bas, je ne sais pas, j'ai oublié le nom du village là. Mm-hmm. Eh bien, le problème, à partir de l'extérieur ici, il a pu diriger sa politique, il a réussi. Mais nous, on vous dit une chose. Du bureau national actuel, du BAG, je suis le seul qui vit à l'extérieur. Aujourd'hui, le BAG a tenu son assemblée, sa réunion du bureau politique en Guinée, aujourd'hui, et qui a très bien réussi. Moi, je ne suis pas là-bas. J'étais le seul absent. Pour le moment, je suis le seul membre du bureau national qui ne vit pas en Guinée. Et moi seul, je ne peux pas faire ce que tous ces autres-là peuvent faire. Donc, et pour le moment, là où je vis, à l'extérieur, je m'occupe de la coordination des activités du parti. J'aide le parti à mener à bien son implantation à partir de l'extérieur, en attendant. Mais écoutez, nous sommes en train de nous y préparer. La lutte sur le terrain, non seulement elle a commencé, actuellement nous sommes en phase de sensibilisation, d'information, de recrutement, d'implantation du parti, mais lorsque les activités vont commencer, cela nous trouvera sur le terrain, ça je vous l'assure. Je veux être, comme je vous le dis, le chef de file de l'opposition à partir des prochaines législatives. Ça veut dire que je serai dans le combat sur le terrain en Guinée.
D'accord. Merci, M. Dioun. M. Dioun, comprenez-nous, il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent. Hein. On aurait voulu...
Il n'y a pas de souci. Je vous remercie,
monsieur. D'accord, merci.
Bon, attendez, M. Ba.
Oui?
Avec votre permission, je peux faire une toute petite mise au point par rapport toujours à la dernière question, où M. Diaouné a dit que la diaspora fait moins de 10% de l'électorat sur le fichier électoral. Allô?
Oui, c'est ce que j'ai dit. Je dis
j'aimerais apporter une petite mise au point là-bas.
Oui.
D'abord, c'est une erreur que l'opposition a commise. L'opposition actuelle a accepté que le président, la mouvance avec Alpha Condé, exclut les Guinéens de la diaspora des recensements. Depuis 2010, Alpha s'était battu corps et âme Et il avait réussi à l'époque à rallier Sidiya et Lucien Niphal à sa demande d'exclure les Guinéens du recensement, les Guinéens de l'extérieur. Alpha avait essayé d'exclure les Guinéens de l'extérieur du recensement parce qu'il estimait que la majorité des Guinéens de l'extérieur ne sont pas ses militants à lui. Malheureusement, lorsque, à l'époque, c'est Baoury qui s'était battu pour que le peu de Guinéens de l'extérieur qui ont été recensés puissent l'être. Et malheureusement, lorsque Alpha est arrivé au pouvoir et l'UFDG a pris la tête de l'opposition, elle a cédé sur toute la ligne. Même ceux qui le peu qui a été recensé, c'est-à-dire ce qui a été fait en 2010, même cela n'a pas été accordé cette fois-ci. Et quand on a procédé au recensement national général des Guinéens, vous remarquerez très bien que monsieur le président actuel a quand même poussé le cynisme jusqu'à exclure définitivement les Guinéens de la diaspora, même du fichier national. C'est-à-dire, officiellement, on ne compte même plus au sein de la population guinéenne. On ne compte pas. Tout ça là pour des raisons électoralistes. Et d'abord ça, on va le corriger. Moi, je vous dis, c'est parce que l'opposition l'avait accepté l'autre fois. Mais, même dans le cas actuel, avoir l'opposition, avoir les militants, les Guinéens de la diaspora, ce n'est pas le plus important, ce n'est pas ce qu'eux, ils vont mettre dans le bulletin. Et moi, je vous dis une chose, la force de la Guinée actuelle, c'est surtout les Guinéens de la diaspora. Parce que parmi les Guinéens de la diaspora, il y a des représentants de chaque famille de la Guinée aujourd'hui. Il n'y a plus une famille en Guinée, même celle des villages de l'intérieur du pays, qui n'a pas sa projection, ses enfants ou ses frères à l'extérieur qui l'aident en cas de problème. Parce qu'en Guinée, même si vous êtes un fonctionnaire de l'RHIA, si vous tombez malade aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous soigner. D'accord. Quand les gens ont des problèmes en Guinée, quand les familles ont des problèmes en Guinée, même quand il n'y a pas de problème, dans la survie même des Guinéens aujourd'hui sur le terrain, ce sont les Guinéens de la diaspora qui l'assurent. Et donc, toutes les familles de la Guinée aujourd'hui ont leur projection à la diaspora. Si vous gagnez la diaspora, eux, ils sont peut-être moins de 10%. Eux, ils peuvent ne même pas voter. Mais chaque Guinéen gagné à la diaspora correspond à toute une famille gagnée en Guinée. Peut-être même à tout un village que vous avez gagné en Guinée. Eh bien, ne minimisez pas les Guinéens de la diaspora, s'il vous plaît.
Merci. Merci, M. Diaoun, à M. Barry aussi. On va demander aux auditeurs d'être très courts, peut-être à M. Barry aussi, d'être un peu très court dans les réponses, pour qu'on puisse prendre le maximum d'auditeurs possible, parce qu'ils sont nombreux en ligne. Le prochain auditeur, c'est toujours la France, c'est le 910, c'est un numéro qui finit par le 910. Allô, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir.
La France, c'est la Belgique.
La Belgique, pardon. Comment allez-vous?
Oui, ça va, et vous?
Ça va, merci.
Voilà. Et donc, moi, je me nomme Ibrahim Abari.
Oui.
Voilà. Je voudrais faire une petite précision juste par rapport à la première question de monsieur qui vient de poser la question. C'est juste un petit commentaire, ça va pas prendre du temps.
C'est pour d'accord, je vous donne 30 secondes.
D'accord, par rapport à toutes ces trahisons que monsieur Sadio Barry a eues de ses alliés, des personnes qu'il a essayé de soutenir, je voudrais juste préciser que il n'a pas une boule de cristal pour savoir que dans l'avenir, les personnes ne vont pas respecter leur engagement. Donc lui, c'est par rapport au présent qu'il soutient les gens, et si eux ils ne répondent pas, il n'a pas il ne peut sait pas lire dans l'avenir. Alors c'est la précision que je voulais donner avant de poser les questions.
D'accord.
Voilà. Donc moi ma première question serait tout à l'heure Monsieur Sadio Barry a donné quelques précisions sur les prochaines, je sais pas comment il a appelé ça, comme les comités d'organisation dans les prochaines pour installer les différentes fédérations, que ce soit en Guinée ou à l'extérieur. Est-ce qu'il sait nous en donner plus de précisions par rapport à ça? Et comment on doit procéder par rapport à la Belgique et au reste les pays occidentaux ou de l'extérieur surtout, qui m'intéressent moins.
D'accord. Une autre question ou c'est la seule?
C'est la seule question que j'ai apprise.
D'accord. Merci, M. Barry. Et reste avec nous pour la suite du débat. M. Barry.
Oui, je remercie M. Barry de Belgique. En fait, il s'agit de mettre en place des commissions d'implantation en attendant, au lieu de directement procéder à la mise en place d'une fédération. Parce que si on met directement en place d'une fédération, c'est qu'on n'aura pas procédé au respect des procédures démocratiques telles que définies par les statuts et telles que cela est normal. Parce que normalement, on doit partir de la base pour installer les responsabilités au sommet. Mais si vous mettez en place une... Si nous disons, nous mettons en place tout de suite une fédération à Bruxelles, tout de suite, la chance que la plupart des membres soient issus, par exemple, de la même section, elle est élevée, c'est-à-dire de la même préfecture ou de la même ville, de la même commune. Cette chance est élevée. Et puis, nous sommes à une phase où nous avons besoin encore d'attirer les talents, c'est-à-dire de donner de la chance et à tous les membres et à la majorité des membres, des militants du parti, c'est-à-dire une certaine chance. Mais si le parti, on l'a fondé il n'y a pas 2 mois, et toutes les premières personnes qui sont informées et qui se sont engagées, parce qu'il y a d'autres qui n'en ont pas été encore informées, tout de suite, et on met on essaie de définir les responsabilités, on partage des postes de responsabilité, c'est que nous nous privons alors nous-mêmes de certaines compétences et de certains talents qui sont susceptibles de venir un peu plus tard. Et ça devient aussi un dommage par rapport à cet objectif d'installer le parti avec une certaine légitimité en partant de la base, parce que ce sont les gens de la section qui doivent se réunir. Et pour les sections, on doit d'abord mettre les sections en place. Par exemple, le cas de la Belgique, terre à terre. Il y a Liège, il y a Louvain, il y a Verviers, ainsi de suite, des préfectures de la Belgique. On met en place une commission d'implantation au niveau de Bruxelles. Cette commission d'implantation, c'est un groupe qui compte, qui a un comité de direction, c'est-à-dire une direction et des membres, qui se retrouvent de façon collégiale, qui discutent pour exécuter les programmes du parti et qui essaient d'aller sur le terrain pour installer, pour implanter, pour sensibiliser, informer les gens de l'existence du parti, de ses objectifs, pour recruter les gens dans le parti. Ce groupe-là peut alors se repartir sur le terrain, repartir les tâches. Certains vont aller vers Liège, d'autres vont aller vers Louvain, et d'autres encore vont aller vers Verviers pour informer les populations guinéennes dans ces localités. Et une fois qu'on a gagné les gens, qu'on a pu enregistrer un minimum d'adhérents, on va maintenant essayer dans chaque préfecture de la Belgique où il y a un nombre considérable de Guinéens, on va installer là-bas une section. Et quand toutes les sections là seront installées sous la direction naturellement de la commission d'implantation, alors ces sections vont être maintenant convoquées ensemble pour élire les membres de la fédération. Cela veut dire que le jour où on va mettre en place une fédération, c'est que cette fédération sera l'émanation des cellules de base, l'émanation de la base. Elle aura la légitimité et elle sera respectée aussi par tous les militants, parce que ce sont les militants de base qui se sont associés pour élire les différents responsables jusqu'à la fédération. C'est ce que nous visons. Et maintenant, cette phase-là nous permet en même temps de procéder à la formation et à l'éducation des potentiels futurs responsables du parti, des gens qui vont représenter le parti dans des pays plus ou moins importants. Vous comprenez? Donc, il faut que ces gens-là aient, en ce moment, d'ici là, la possibilité d'être formés, de connaître les lignes directrices du parti, c'est certains principes auxquels, de chez nous, on doit répondre par rapport, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de contradiction par rapport aux principes fondamentaux du parti. Et tout cela, nous avons le temps d'instruire les membres de cela avant de choisir des responsables nationaux. Voilà. Et en ce qui concerne maintenant des modalités et tout. Et par exemple, vous, en Belgique, comme les autres, il y aura une note circulaire qui va être adressée à tous les membres actuels du parti, ceux qui représentent le parti pour le moment de façon informelle à Bruxelles. Il y a déjà une commission qui s'en occupe actuellement à Bruxelles. Mais la commission là à Bruxelles, comme aux États-Unis, ils vont recevoir les jours prochains une note circulaire qui en définit les modalités et les prérogatives et provisoires.
D'accord. Merci. Monsieur Barry, ça va, Monsieur Barry? D'accord. D'accord. Monsieur Barry de la Belgique, hein. Donc restez avec nous pour la suite du débat. D'accord. On me signale hein, qu'on a des auditeurs sur Zeno Live aussi, notre application Google, aussi, qui veulent intervenir, qui veulent poser une question. On a aussi une question, Monsieur Barry, du côté de Radio Moussidal. On nous signale aussi là, notre radio partenaire, radio-mh.com aussi, un auditeur de la radio aussi qui a une question. Et la question de cet auditeur, Monsieur Barry, c'est quelles sont les valeurs, aujourd'hui, quelles sont les valeurs du BAG?
Je remercie Radio Moussidal Alipoudar qui a posé une question très très importante et sans aller trop loin dans les détails, je dirais ceci. Les valeurs de notre parti BAG sont l'équité, l'intégrité, la solidarité, la prévoyance ou anticipation, la prévention, le travail, la responsabilité et la réactivité. C'est ça.
D'accord. Okay. Merci, M. Barry. Donc, c'était la réponse à notre auditeur sur Radio Moussidal, radio-mh.com. Je rappelle que c'est une radio partenaire aussi au travers duquel beaucoup, des milliers d'auditeurs aussi nous écoutent. Et maintenant, un auditeur du côté de notre application Radio Afia News sur Google Play, sur la radio Zeno Live. Bonsoir. Je ne sais pas si on peut m'ouvrir le micro du côté de l'auditeur. Ibrahim Ahmed. On a un autre auditeur du côté de Zeno Live. Allô? D'accord, je pense que on n'arrive pas à l'ouvrir. Donc, vous me faites signe à un moment lorsque l'auditeur sera prêt à intervenir. On va continuer toujours la série d'interventions. Et cette fois-ci, on va du côté...
Allô,
la...
tu m'entends?
Oui. Oui.
Le micro est ouvert.
D'accord, ok. D'accord. Bonsoir. Allô, vous m'entendez? L'auditeur sur l'application, bonsoir. Allô? D'accord. Je pense qu'on a un souci, hein, Ibrahim. D'accord. Donc, on va aller du côté... Allô?
Oui, allô, vous m'entendez?
Oui, on va aller du côté de la Suisse, Monsieur Papa Atigou. Bonsoir, comment allez-vous?
Oui, je vais très très bien. Comment allez-vous aussi?
On se porte très bien, merci.
Voilà, je voudrais encore vous remercier de m'accepter aujourd'hui encore. J'ai décidé de venir parce que c'est aussi Sadio qui est votre invité. Oui. Et Sadio, j'ai lu l'annonce de la création du parti, dont il a l'honneur de diriger. Sadio, c'est un ami d'enfance, un camarade de promotion, un compagnon et un compagnon de lutte. Et aussi un camarade d'aventure. Donc, c'est pour vous dire que toutes les sauces... Et aussi, on a fait la prison ensemble, la prison politique. C'est pour vous dire combien de fois que j'ai partagé des choses extraordinaires avec Sadio. Et je n'ai pas eu l'occasion de le saluer, de le remercier, ou même de l'écrire pour lui dire combien de fois j'ai apprécié sa volonté, mais aussi sa décision de créer un parti politique. Donc, je voudrais saluer l'idée qu'il a amenée à prendre enfin la décision de devenir lui-même un acteur avant-gardiste de ce que va être la Guinée d'aujourd'hui et la Guinée de demain. Je voulais, devant vous tous, lui témoigner mon encouragement et ma reconnaissance et le respect de son engagement. et le connaissant. Et je pense qu'ensemble, nous irons jusqu'au bout de l'aboutissement des idéaux qui ont prévalu à l'avènement d'un état de droit en Guinée. Donc, cela étant dit, je voudrais aussi, dans son intervention, il a avancé l'idée selon laquelle que la Guinée n'était pas démocratique. Je pense que c'est là où je voudrais revenir un peu pour lui dire que du moment qu'il est venu maintenant, mon avis serait que nous continuions le combat là où il se trouve actuellement. Pour moi, la Guinée est devenue un pays démocratique grâce aussi à sa participation active, à son engagement. Et pour moi, la Guinée de Sékou Touré et la Guinée du Comité militaire de redressement national n'est plus la Guinée d'aujourd'hui. C'est la preuve que la Guinée est entrée dans une ère démocratique. Et pour moi, la démocratie, c'est, comme vous le savez très bien, c'est quand un système politique accepte le fait que le peuple devient le souverain. Il est vrai que notre démocratie est jeune. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a que 25 ans. Comparé à la Révolution française de 1789 jusqu'à nos jours, quand on regarde ces sociétés-là, on trouve encore il y a des failles dans leur système démocratique, mais leur peuple continue à se battre, à combattre pour les colmater et les adapter à l'évolution de notre monde, qui est une évolution permanente où les hommes changent, les manières changent, les visions changent, les réalités changent. Et à cela s'ajoutent aussi les cas de force majeure qui viennent souvent basculer ce que nous, on pensait être définitivement acquis. Donc notre démocratie guinéenne, elle existe aujourd'hui, c'est un opposant qui est à la tête de notre pays, même si la façon dont le système et ce régime politique a été intronisé est discutable, mais on s'accorde tous à dire qu'Alpha Condé était un autre collègue dans l'opposition, notre camarade, même si c'est notre doyen, notre camarade dans la lutte démocratique en Guinée. Aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête de notre pays. Donc, à partir de la naissance de notre loi fondamentale, elle avait consacré, n'est-ce pas, le principe des éléments constitutifs de notre démocratie. D'abord, elle, la loi fondamentale qui est la Constitution, elle a consacré la naissance des partis politiques, les syndicats, une société civile, etc. Donc, tous les éléments constitutifs de la démocratie existent en Guinée. Aujourd'hui, nos institutions sont le fait de la naissance d'une démocratie en Guinée. Mais le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est la consolidation de notre démocratie. On a obtenu notre démocratie, mais elle n'est pas consolidée. Et comment la consolider ? La consolidation passe par l'enracinement de notre démocratie dans la conscience collective de notre peuple et dans nos institutions. D'où la volonté politique de respecter ce qu'on a bâti jusque-là. Et pour ça, on n'a pas encore trouvé l'équipe qui vaille, qui aurait la volonté de le faire, comme les Rawling l'ont fait au Ghana, comme les Béninois sont en train de le faire, et comme en Afrique du Sud, on est en train de construire depuis la libération de Nelson Mandela une autre Afrique du Sud. D'accord. Donc, sur les 54 pays africains, c'est vrai, je comprends Sadio, quand on regarde, on totalise, on trouve que oui, il y a encore du travail à faire. Mais l'Afrique commence à rentrer dans l'ère et nous sommes dans la période de la consolidation de la démocratie et j'en suis sûr que quand je verrai Sadio, nous allons en parler et nous allons nous mettre dans la problématique de la consolidation de la démocratie en Guinée. Et maintenant, par rapport à ma question, comme je ne dois pas être long, je vous remercie déjà, c'est juste demander à mon frère et ami Sadio. Un, c'est dans quel courant politique son parti s'inscrit. Est-ce que c'est un courant libéral ? Je connais maintenant les principes, il les a dégagés. Est-ce que c'est un courant politique démocratique et libéral ? Est-ce que c'est communiste ? Est-ce que c'est socialiste ? Est-ce que c'est écologiste ? Etc. Et deuxièmement, c'est est-ce qu'il le dédie au nom de la renaissance politique en Guinée ? Ou bien il vient juste combler des lacunes causées par nos anciennes qui n'arrivent pas encore à remettre la Guinée sur les rails d'une démocratie et fiable et convenable à la Guinée du 21e siècle. Je vous remercie.
Merci. Je rappelle que vous êtes aussi leader de parti politique, hein, de l'UPDG.
Oui.
Je pense que mon collègue vient de me signaler tout à l'heure. Donc vous avez recherché à Pianus aussi. D'accord.
Exactement.
Merci, M. Papadégou.
C'est moi qui vous remercie. Oui, merci bien.
M. Barry, vous avez écouté...
Oui, d'abord, je voudrais dire bonsoir à mon frère et à mon compatriote Papa Atigouba. En fait, il est communément connu sous le nom de Papa Atigouba, au lieu de Atigouba tout court. Si vous dites Atigouba, beaucoup de gens ne vont pas savoir de qui il s'agit. Cet homme qui vient de parler ici, M. Ba, c'est bien l'homme qui, à l'université de Conakry, en 1989, après la période des Koumi et le musellement carrément des étudiants par le régime militaire à l'époque, c'est Papa Atigouba qui a révolutionné la lutte estudiantine en Guinée. Et le grand mouvement qui a débuté en Guinée en 1989 et qui a continué avec nous après, et les grands initiateurs de ce mouvement, c'était les Papa Atigouba. Donc je suis très très content aujourd'hui de l'entendre parler et je voudrais tout de suite dire que je m'inscris sans hésitation dans la logique que nous avions commencé à l'époque et dont il avait déjà incarné une fois, parce qu'il était notre aîné, c'est-à-dire il était d'une année en avance sur nous. Et c'est, comme je le dis, c'est son équipe et lui personnellement qui a révolutionné le mouvement étudiantin en Guinée. Donc, je m'inscris dans la logique de la lutte que nous avons commencé à l'époque. Et comme il l'a dit tout à l'heure, et à ce titre, je dirais sans hésitation que nous dédions notre parti à la Renaissance, comme d'ailleurs notre logo le stipule. Et on ne vient pas pour combler ou pour s'associer ou s'accommoder à ce qui existe. Nous voulons directement pour le changement et pour l'aboutissement du combat que nous avons démarré, c'est-à-dire pour un véritable changement démocratique et de gouvernance dans notre pays, la Guinée. En ce qui concerne la question de positionnement, c'est-à-dire de coloration, si on est de gauche ou de droite, je crois que je l'avais dit au début, nous, au BAG, nous n'appartenons à aucun courant politique particulier. C'est-à-dire nous refusons ces étiquettes-là en réalité. Parce que moi, personnellement, j'estime que nous n'avons pas, en ce moment en Guinée, à plagier directement certaines choses des pays occidentaux, parce que simplement, eux, ils le font, ou bien c'est là. Et si nous regardons très bien l'histoire aussi de ces pays, prenons la France qui est notre référence. Écoutez, depuis 1467, il y a la séparation des pouvoirs en France. Depuis 1467, il y a la séparation des pouvoirs en France. Mais pour les clivages gauche, droite, communiste, socialiste, ça n'existait pas. Cela a existé pour la première fois en France, pendant la période de la Révolution. Et la France, en matière d'évolution démocratique, c'est le pays de référence en Occident. Mais c'est au milieu, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution française, il y avait le Parti ouvrier. C'est-à-dire quand il y a eu l'essor industriel, il y a les classes d'ouvrières, les classes d'ouvriers, les capitalistes, c'est-à-dire les dirigeants de multinationales et les ouvriers, ces deux classes ont existé parallèlement. Alors, dans les parlements, il y a eu la projection de ces deux classes, c'est-à-dire les ouvriers ont formé leur équipe pour avoir l'air parlementaire afin de défendre les employés, les intérêts des employés. Donc, il a commencé à exister au milieu du 19e siècle grâce à l'essor industriel, D'abord, le parti des ouvriers. C'était le parti ouvrier qui existait, à côté des anciens dirigeants. C'est-à-dire, bon, eux, c'est eux qui ont continué à représenter toujours les libéraux, parce que c'était les esclavagistes, c'était eux qui avaient les moyens, c'est eux qui ont les industries. Donc, devant eux, les employeurs, il y a les employés qui ont formé leur propre groupe, il y avait le parti des ouvriers. Mais c'est lorsque la révolution a éclaté en France que le parti des ouvriers, c'est-à-dire ceux, les révolutionnaires de ce groupe-là, ont décidé carrément c'est-à-dire eux, ils ont envisagé, c'est-à-dire les aspirations égalitaires, le désir d'instaurer une société juste par la mise en commun des biens, qui ont transformé le parti ouvrier en parti communiste. Et tout de suite, il y a eu de la division. Alors, les réformateurs sociaux, c'est-à-dire de ce groupe-là, qui n'envisageaient pas la communauté des biens, c'est-à-dire tel que les communistes-là le voulaient, et eux, comme une solution, ils ont mis en place, c'est-à-dire pour transformer la société, des systèmes forts et divers et alternatifs au système capitaliste des esclavagistes et des communistes et qui sont des révolutionnaires. Maintenant, c'est-à-dire le terme socialiste qui désigne maintenant ces réformateurs-là est apparu en France le 23 novembre 1831. Pour la première fois, c'est le 23 novembre 1831 que le terme socialiste a existé en Europe. Alors qu'avant, il y avait déjà le pluralisme parlementaire déjà en Europe depuis longtemps, depuis des centaines d'années. C'est ainsi que les ouvriers révolutionnaires prendront l'appellation communiste et les ouvriers réformateurs prendront l'appellation socialiste. Vous comprenez, les deux courants se sont carrément distingués à partir de 1840. Donc, ce sont des choses, des clivages qui ont existé ici, qui ont été générés par l'évolution des sociétés et la génération des classes d'intérêt. Pour le moment, en Afrique, nous estimons, en Guinée particulièrement, nous estimons que la Guinée, pour le moment, est à une phase où nous n'avons pas besoin de choisir une catégorie à soutenir et à défendre. C'est-à-dire tout le monde, tout le peuple dans son ensemble maintenant là est à défendre parce qu'il nous manque tout à la base. Donc, nous voulons d'abord aider la population guinéenne dans son ensemble pour avoir accès, c'est-à-dire à l'eau potable, pour avoir accès à la justice, à l'équité, pour avoir accès à un environnement propre et à la sécurité. Ça, là, dans ce domaine, nous voulons coopérer, travailler avec tous les partenaires possibles qui soutiennent ces idées. Que ce soit maintenant des gens qui se disent communistes, des gens qui se disent libéraux, des gens qui se disent droite ou chrétiens ou n'importe quoi. Si vous voulez nous soutenir, vous voulez nous aider à atteindre ces objectifs, nous sommes prêts à collaborer avec la personne. Merci.
D'accord. Merci, M. Barry, et aussi à M. Atigouba. Reste avec nous pour la suite du débat. On va
oui,
faire tout le tour.
Monsieur Ba, si vous me permettez, oui. J'aurais oui. souhaité avoir après le contact de M. Atigouba, s'il vous plaît. Après.
D'accord, pas de souci, M. Atigouba. Ok, pas de souci. On va en discuter avec lui et puis bon, je vous ferai un feedback. Monsieur Atigou, oui. le numéro avec lequel vous êtes en ligne, c'est le numéro.
C'est d'accord.
C'est qu'on peut
oui,
vous joindre.
C'est mon numéro, je suis joignable là et je suis d'accord.
D'accord.
Vous pouvez le communiquer à mon frère et à Sadio.
D'accord.
Merci
pas
beaucoup.
Je le ferai.
Merci.
Oui. Merci, M. Atigou. Restez avec nous pour la suite du débat. OK. On va aller du côté des États-Unis cette fois-ci, hein, tout en étant fidèle à cette table ronde un peu partout, à travers les quatre coins du monde. Si vous me permettez, d'abord, j'ai un auditeur au niveau de la Guinée. Je ne sais pas si c'est un auditeur qui voudrait bien intervenir. Hein. J'ouvre le micro. C'est le 968. Bonsoir. Allô? 968, vous appelez de la Guinée. Vous m'entendez? D'accord. OK, faites ceci. D'accord, c'est juste un auditeur qui nous appelle directement de la Guinée. Donc, on va aller du côté des États-Unis à la frontière est du Canada et des États-Unis. C'est notre fidèle auditeur, Mohamed Ding City. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, Mamadou Racine. Comment ça va, mon frère?
Ça va, merci. Et vous?
Alhamdoulilah, Dieu merci. Merci de m'avoir donné la parole. Je remercie là-bas Sadio Barry, je suis très content de l'entendre parce que depuis longtemps, je l'avais pas entendu. Mais j'espère bien, avec la même combativité qu'il a et avec la même détermination, et je sais, Inch'Allah, Dieu va le protéger et il continuera à se défendre toujours. Donc, je voulais leur poser une question parce que le combat va être très dur en Guinée parce qu'on a vu la situation qui se passe en Guinée. Parce que dans la vie, il faut avoir une conviction. Et je suis certain, je crois, d'après mon expérience personnelle, que Sadio est un homme qui a, si tu veux, la détermination et son sens de combat. Il a sa conviction personnelle. Donc, je l'encourage beaucoup. Mais je voudrais savoir toujours encore avec mon frère Sadio, que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup. Malgré que je ne le connais pas, et on ne s'est jamais vu, mais par son sens de combat que j'admire beaucoup. Lequel des partis politiques, parce que je crois qu'il a beaucoup de relations en Guinée, et comme il a dit, comme beaucoup de gens le critiquent, qu'il ne peut pas rester à l'extérieur, ils ont parlé jusqu'à maintenant, il a créé son parti. Et je sais qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout. Est-ce que dans tous les partis que lui, il a vu en Guinée naître, et l'évolution de la situation en Guinée. Lequel des partis que Sadio, honnêtement, qu'il espère un jour rencontrer dans le combat et qu'ils ont la même réflexion et la même vision pour l'avenir de notre chère patrie, la Guinée. Je m'excuse si j'ai été trop long, mais il fallait encore intervenir parce que si j'entends Sadio, j'avais un programme, mais il fallait que j'entende ça aujourd'hui pour pouvoir le poser au moins une question, parce qu'il y a longtemps. Je vous remercie, la grande radio Afia News, le combat continue. C'est toujours Bing City, au nord-est des États-Unis d'Amérique, à la frontière du Canada, l'homme de la frontière, le combat continue.
Merci Mohamed, Bing City. Ok, d'accord. Monsieur Barry.
Oui, je remercie très bien notre frère Mohamed Diallo. Et bon, pour répondre à cette question, je pense que ce n'est pas, je n'ai vraiment pas beaucoup de choses à dire. Le parti politique que nous apprécions énormément dans ses démarches et dans ses prises de position que nous qualifions de courageuses et correctes, c'est, en ce moment, c'est beaucoup plus le BL, dont le leader est M. Faya Milimono. Et nous apprécions aussi ces derniers temps les prises de position courageuses et les initiatives courageuses du leader Jean-Marc Téliano, qui a pu pousser quand même l'opposition dans une démarche vraiment sans précédent pour essayer de mettre en accusation le président de la République par rapport à ses multiples violations de la Constitution. Donc, nous apprécions très bien les démarches de ces deux leaders. Voilà. Merci.
Merci, M. Barry. On a aussi une question d'un auditeur qui nous suit en ligne, qui pose la question de savoir qu'est-ce que Sadio Barry pense du poste du chef des filles de l'opposition.
Le poste de file de l'opposition, qu'est-ce que nous pensons du poste de file de l'opposition? Ça, c'est une question fondamentale que j'apprécie beaucoup. Et nous ne reconnaissons pas ce statut, dont la constitutionnalité peut même être mise en doute dans le cas guinéen, où nous avons opté pour le multipartisme intégral. Donc, nous estimons que, c'est-à-dire, on aurait même dû d'autres partis qui n'étaient pas du tout enthousiastes par rapport à ça. Parce que malheureusement, dans le Parlement, quand Alpha a proposé la loi, tous les partis, même ceux qui s'étaient prononcés contre, ils ont voté. Ça, c'est aussi propre. Cette forme de démagogie et d'hypocrisie est propre aux Guinéens, malheureusement. Mmh. Et donc, nous pensons que c'est-à-dire le statut de chef de file de l'opposition, pour moi, ce n'est pas compatible. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout. C'est-à-dire, on peut mettre en doute sa constitutionnalité. Nous sommes dans un cas de multipartisme intégral. La loi, la constitution stipule que tous les partis politiques doivent avoir les mêmes chances, les mêmes droits. Mais qu'est-ce que vous remarquerez? Le poste de chef de file de l'opposition fait quoi? Ça crée la différence entre les différents partis politiques qui sont censés être indépendants. Chaque leader politique, il a une philosophie, il a un projet de société, il a son parti et les intérêts de son parti qu'il défend, et à un moment donné, il est en concurrence directe avec les autres sur le terrain. Par exemple, les communales arrivent. Quand les communales arrivent, les législatives arrivent, les partis sont directement en concurrence. Mais le poste de chef de file de l'opposition, le statut-là, fait quoi? Donne des avantages à un parti politique par rapport de l'opposition par rapport aux autres. Ce n'est pas correct. Ça viole directement le principe de l'égalité et des chances des partis politiques, en réalité. Alors, si vous prenez la France, qui est notre référence, cette France n'en a pas, on n'en a pas en France, parce que cela ne se doit pas dans un système de multipartisme. Et Alpha Condé ne l'a pas proposé de bonne foi, ou par amour pour Seydou Dalein Diallo, tout au contraire. Il l'a proposé après avoir déclaré qu'il va démontrer que les anciens premiers ministres leaders politiques sont des nains politiques. Alpha l'a dit publiquement, c'est après avoir dit ça qu'il a proposé le statut de chef de file de l'opposition. Il a dit qu'il va démontrer que ce sont des nains politiques, des petits comptables, qui calculent par rapport à leur intérêt personnel seulement. C'est ce qu'il a dit. Eh bien, ce statut de chef de file de l'opposition est un piège dans lequel Alpha Condé a fait tomber le président de l'UFDG et le reste de l'opposition. C'était pour les diviser et conduire à la marginalisation du chef de file de l'opposition en réalité. Vous allez remarquer, quand on n'a pas commencé à parler de chef de file de l'opposition et de lui donner des avantages de temps en temps, mais dès le début, et puis on l'appelle quand il y a un problème au niveau du dialogue national, on parle de dialogue national, il y a plusieurs partis politiques, chaque parti représente un courant d'intérêt donné par rapport à son statut, à ses propres projets. Mais qu'est-ce qu'on fait? On raccourcit en appelant une seule personne, le chef de file de l'opposition, au nom de toute l'opposition, lui on l'appelle, lui il vient, et dès que le président s'entend, c'est-à-dire dès que lui donne son accord par rapport à quelque chose, on dit que l'opposition a accepté. Ou bien on dit, bon, l'opposition a rencontré le président parce que le chef de file l'a fait, alors que lui peut faire une démarche que les autres n'approuvent pas. Vous comprenez? Déjà, la coalition dans laquelle se trouve actuellement l'UFDG, il n'y a pas tous les partis qui ne sont pas avec le pouvoir qui sont dans cette coalition. Alors donc, il ne peut en aucun cas aller parler au nom de toute l'opposition. Vous voyez? Eh bien, ce statut, comme je l'ai dit, est un piège dans lequel le président a fait tomber l'opposition. Donc, comme lui, le président de l'UFDG, il semble aimer ce statut artificiel que lui offre son adversaire et tombeur Alpha Condé, eh bien, nous lui souhaitons bon vent. Mais si moi, j'arrive à sa place, si le BAG gagne la majorité au Parlement, nous allons supprimer ce statut qui offre des avantages au chef de l'opposition, garantis, des avantages garantis directement par le président de la République, et le pouvoir en place. Ça, c'est une forme de corruption et une source de division de l'opposition républicaine. Nous allons supprimer directement ce statut. Si nous arrivons à la tête, c'est-à-dire si nous gagnons la majorité aux futures législatives. Merci.
D'accord. Merci, M. Barry. Un autre auditeur, hein, cette fois-ci, c'est du côté de l'Allemagne. Je rappelle, hein, lorsque vous demandez la question une fois, étoile 6, ne faites pas le même, étoile 6 à nouveau, sinon ça vous enlève de la liste de ceux qui veulent intervenir. C'est le numéro qui finit par le 794, c'est depuis l'Allemagne. Bonsoir. Vous m'entendez? Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Comment allez-vous?
Oui, ça va très bien.
D'accord, je vous ai vu sur l'écran, vous voulez intervenir?
Oui, j'interviens à partir de l'Allemagne, c'est M. Keïta.
Oui, M. Keïta, oui, comment allez-vous?
Ça va très très bien, M. Barr.
D'accord.
Enfin, tout de suite, j'ai écouté. Mm-hmm. Je pense que ma question a été déjà posée. Hein.
D'accord, merci Al.
Oui, puisque vous avez dit, parce que j'ai fait des deux côtés, quoi.
Ah, ok, d'accord, je comprends. C'est vous qui avez
voilà.
posé la question en ligne. D'accord, je comprends.
Voilà,
Merci.
c'était moi.
Merci.
Donc, c'était concernant le chef de
Le
l'opposition,
fil de
quoi.
l'opposition.
Donc, la
D'accord, merci.
Russie, j'ai suivi avec succès.
D'accord.
Voilà,
D'accord,
donc je suis très
merci.
satisfait, vraiment.
D'accord.
Ouais.
D'accord. Merci, Monsieur Keïta. Portez-vous bien.
Ouais, mais...
Oui? Allô? Ok. Merci, Monsieur Keïta. Portez-vous bien. Ouais.
Merci bien, ouais.
Ouais. D'accord. On reste du côté de. On va aller du côté de la Suisse, hein, à nouveau, avec Sadou, Monsieur Sadouba. Comment allez-vous? Bonsoir.
Oui, je vais bien. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Ba. En fait, aujourd'hui,
Bonsoir.
je suis très content parce que aujourd'hui, le débat encore, il est de plus en plus important à partir du
Oui.
moment où nous parlons des trucs très importants. D'abord,
D'accord.
je voulais revenir sur le cas d'hier avec Monsieur Wang, qui intervient bien, qui était précis. Mais à un moment donné, j'aurais bien voulu que vous attiriez l'attention de ces gens. Il ne faudrait pas qu'on me prenne quelqu'un qui a quelque chose contre Monsieur Selloudalé. Je
D'accord.
n'ai rien contre
Si
Selloudalé.
vous me permettez,
Ça,
Monsieur
c'est un.
Sadou, puisque c'est
OK.
deux émissions un peu différentes, Monsieur Wan n'est pas là
Oui, je sais
justement
que
pour
c'est des émissions
pouvoir.
qui sont différentes. Ah, bon, OK, je m'excuse
D'accord,
alors.
justement, parce qu'il faut qu'on
OK.
donne l'occasion à Monsieur Wan, si vous intervenez aussi, de le
Oui,
faire et on risque de
j'aurais
sortir
bien
un peu du
souhaité
cadre de
cela,
l'émission de
quoi.
ce soir. Merci pour la
Oui.
compréhension. Allez-y.
OK. Au fait, aujourd'hui, je suis encore une
Oui.
fois content parce que la question qui est posée en ce qui concerne le chef de file de l'opposition, moi, je m'étais déjà opposé dès le début. J'ai même écrit un article. Il y a
Mais...
J'ai été traité de tous les noms d'oiseaux. Moi, je pense
Mmh.
bien, si nous partons de l'histoire de la Guinée depuis l'indépendance, les dégâts qui ont été causés après l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est-à-dire les dégâts administrativement, la Guinée en a subi beaucoup. Donc, je ne vois pas l'utilité de cela pour un opposant qui a le souci, le devenir de ce pays, non seulement du point de vue comptable quelque part, il fait partie. Il est comptable quelque part de ce retard de la
D'accord.
Guinée
Donc,
quelque part, parce qu'il a géré le pays, d'après
alors,
moi, je vous dis d'après
si je
moi.
comprends bien, M. Sadou, c'est un avis sur une question qu'un auditeur a posée.
Oui.
D'accord. Vous avez une question pour M. Barry aussi?
Oui, j'en ai une question pour lui. J'en ai une question
D'accord.
pour lui.
Allons-y rapidement parce que on a
OK.
nombreux auditeurs qui sont en ligne. Et,
Au
d'accord.
fait, je
Allez-y.
respecte beaucoup M. Sadio Barry. C'est un
Oui.
frère que j'admire parce que je le vois, il combat, il est là, même s'il n'était pas de l'opposition, mais il a fait comprendre à l'opinion publique nationale et internationale qu'il combattait le pouvoir en place, qu'il combattait le mauvais système qui est en Guinée aujourd'hui. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est de voir que quand j'entends dire M. Sadio dire de ne pas se fier au projet de société, là, je ne comprends pas. Parce que pour moi, tout opposant doit avoir un projet de société qui peut dire qui vraiment, à partir du moment le projet de société qu'il a, cela, à mon avis, pourra attirer des gens, dire, ah, ce projet, il est confiant, ce projet, il est bon pour le peuple. Là, à partir de là, il peut avoir des gens pour dire, ah, il peut avoir des gens pour le soutenir. Mais dire de ne pas se
D'accord.
fier à un projet de société d'un parti politique, je ne comprends pas. Donc, j'aurais bien
D'accord.
voulu qu'il me soutienne une fois encore de plus.
D'accord. Merci, Monsieur
Voilà.
Sadou. Reste avec nous pour la suite du débat. Monsieur Barry, le projet de société. Il
Oui,
revient,
en
hein,
fait,
sur la
je
question.
crois que Monsieur Sadou, je ne sais pas à quel nom,
Monsieur Sadou,
n'a
bah
pas
oui.
très bien compris, mais je vais expliquer un peu. Je n'ai pas dit de ne pas se fier au projet de société. Non. Écoutez, avant que nous n'enregistrions notre parti, nous avions commencé d'abord par c'est-à-dire par la rédaction d'un projet de société. Nous avons écrit le projet de société au complet. Nous l'avons. Il peut être enrichi et amendé lors du prochain congrès, mais le projet de société, nous l'avons déjà intégralement. Bon, parce que tout parti politique qui vient à la conquête du pouvoir doit avoir ce qu'il propose comme alternative par rapport au système en place, par rapport à la mouvance et par rapport aux autres partis qui sont dans la concurrence. Donc, nous, contrairement à tous les partis que vous avez en Guinée, écoutez, le RPG, quand on avait demandé à Alpha Condé en 2010 quel est son projet de société, à la télé, je l'ai suivi, il a dit que lui, quand il viendra au pouvoir, il va réunir les enseignants leur demander qu'est-ce qu'il faut, ce que les enseignants diront par rapport à l'éducation, c'est ce qui va se faire. Il va réunir les femmes, ils demanderont aux femmes quels sont les besoins, qu'est-ce qu'il faut faire, les femmes elles-mêmes vont décider. Il va réunir ici les étudiants, chacun aura une tablette, chacun aura l'Internet. Écoutez, c'est des histoires, ils n'avaient même pas de projet de société en réalité. Et quant à l'autre partie, l'UFDG, son projet de société a été rédigé en 2010. S'il vous plaît, ils ont obtenu le projet de société, ce n'est pas eux qui l'ont rédigé, ça, c'est un cadeau qu'Abdoulaye Wade a offert à M. Selou Dalein Diallo. Donc ils ne l'ont même pas rédigé eux-mêmes. Alors, si des gens peuvent aller plagier des textes, ou bien obtenir des textes de n'importe quoi, de n'importe qui, ils viendront vous lire ces textes-là. Et c'est fini, vous allez être embobiné. Écoutez, la constitution guinéenne, elle est la meilleure du monde, je peux dire. C'est une constitution qui est parfaite. Rien ne manque à la constitution guinéenne. Mais quelle est la situation des Guinéens aujourd'hui? Ce que j'ai voulu dire, c'est de ne pas se fier à ceux qui présentent ces projets de société. Vous ne devez pas dire, je ne voterai quelqu'un, maintenant mon choix d'un parti, c'est d'abord le projet de société, que c'est force uniquement le projet de société que l'on va me présenter. La Guinée n'est pas à ce niveau en ce moment. Je vais vous dire une chose. Il faut maintenant se fier à la personne. C'est-à-dire, est-ce que la personne qui vous présente un projet de société, cette personne est crédible? Cette personne a sa parole, respecte sa parole. Écoutez tous les accords qu'on a signés en Guinée. Le président actuel, il n'a respecté ni ses promesses, ni ses engagements qu'il a signés même devant la communauté internationale.
D'accord, monsieur Barry,
oui,
je vous l'accorde. Puisque
oui,
maintenant,
excusez-moi, juste je vais conclure ça.
D'accord.
Je n'ai pas dit de ne pas croire au projet de société, mais j'ai dit de ne pas se fier à toute personne qui vous présente un projet de société. Donc les gens ne doivent pas se focaliser sur le projet de société. Ils ne doivent pas, parce que nous avons tout. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un homme crédible à la tête de la Guinée. Un homme crédible qui peut tenir sa parole. Un homme crédible qui peut respecter la loi en place et l'appliquer. C'est le
d'accord,
plus important. Ça, c'est plus important que ce que les gens viennent promettre publiquement.
D'accord. Peut-on avoir une idée du contenu de votre projet de société?
Mais j'ai cité tout à l'heure les grandes lignes. C'est un projet de société. C'est un document de centaines de pages. On ne peut pas énumérer tout ça ici. Écoutez, les projets de société, les partis qui ont présenté un projet de société en 2010, c'est seulement pendant la période de campagne que les gens ont décliné leur projet. C'est au moment où on vient en compétition que chacun présente ce qu'il propose. On ne va pas étaler maintenant ce que nous, on a écrit de nous, de nos propres mains. On ne va pas l'étaler maintenant pour que d'autres essaient de plagier ça déjà avant que nous, on arrive sur le terrain. Non. C'est ce que nous pouvons dire. Notre objectif principal, c'est d'aider, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la justice en Guinée, un état de droit, et qu'il y ait des institutions fortes. Mettre en place un plan de développement économique, environnemental et social, mettre fin aux inégalités et injustices sociales, contribuer à la paix ainsi qu'à la sécurité en Guinée, d'abord dans la sous-région, au niveau africain et au niveau mondial. Faire en sorte que les Guinéens aient accès, c'est-à-dire aux soins de santé, à l'eau potable, à l'électricité. Ce minimum-là, il faut d'abord l'assurer. Ce sont les points, les lignes principales de notre projet de société. Mais les détails, je ne peux pas vous donner ça maintenant ici.
D'accord.
Et pour des raisons bien fondées.
D'accord. Donc, ils ont un projet de société, mais comme vous le savez, comme ils le disent, à la veille des élections, s'il le faut, ils vont dévoiler justement les grandes lignes, expliquer un peu ce projet de société. Merci, M. Barry.
Voilà.
Merci aussi, M. Sadou, pour la compréhension. On reste en Allemagne, cette fois-ci, avec un autre numéro, c'est le 950. Bonsoir. Allô, vous m'entendez?
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, c'est... Excusez-moi, je suis un peu arrumé. C'est M. Ba Abdoul.
Ok, d'accord. M. Ba Abdoul, comment allez-vous?
Oui. Comment allez-vous? Je commence d'abord par vous saluer, M. Seba.
Oui.
Et merci de m'avoir donné la parole.
Oui.
Et moi, j'ai pas de questions. Je voulais juste dire quelque chose. Je ne serai pas aussi long parce qu'il fait déjà nuit. Je sais qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui veulent poser des questions.
Mmh. Yeah.
Moi, je voulais juste vous dire que M. Barry, c'est un ami. Un ami que je respecte beaucoup, un ami avec qui je partage la même vision, un ami avec qui je suis prêt à aller au combat. un ami à qui je peux avoir confiance, pas parce qu'on est de la même famille, pas parce qu'on est du même village, pas parce qu'on est du même pays, mais parce que je le trouve l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour la Guinée. Si aujourd'hui la jeunesse guinéenne veut un changement, si aujourd'hui on veut une alternance en Guinée, si aujourd'hui on veut renouveler la classe politique guinéenne, je pense qu'on a l'homme qu'il faut aujourd'hui. Mmh. Écrire des débats, écrire des discours fleuves sur Facebook et mettre des vidéos tous les jours sur Facebook, cela n'arrange pas le problème de la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, c'est soit on veut le changement ou on ne veut pas le changement. On ne peut pas en même temps vouloir le changement et suivre les voleurs de la République. Ça, c'est impossible. On ne peut pas lutter contre une dictature en soutenant un dictateur. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Et c'est devenu une chose très, très grave. Il y a des peuls aujourd'hui, je vous jure, qui n'osent pas critiquer Sellou Dalin. Il y a des peuls aujourd'hui qui n'osent même pas aller à l'abbé critiquer Sellou Dalin. Il y a aujourd'hui des Guinéens qui n'osent pas aller dans certains endroits en Haute-Guinée critiquer le président de la République. Aujourd'hui, le pays est pris en otage par deux personnes. Et ces deux personnes-là ne peuvent pas être la solution pour la Guinée. Nous avons vu ce qui vient de se passer entre les deux hommes-là. Après chaque tuerie, après chaque assassinat, ils se retrouvent, ils prennent des photos, après ils continuent à berner le peuple. Il faut que cela s'arrête maintenant. Maintenant, moi étant un membre actif du BAG,
okay,
je veux dire ici à mes détracteurs, à tous nos détracteurs, tous ceux qui ne veulent pas qu'on critique Sellou Dalin ou Alpha Condé, ils n'ont qu'à leur dire de laisser la politique, de démissionner et d'aller vivre dans un autre pays. Merci beaucoup.
D'accord, je pense que c'était plutôt un membre du M. Babdoul qui fait partie aussi de ce parti en Allemagne, n'est-ce pas? Merci.
Oui.
D'accord. Une réaction de M. Barry ou je continue le prochain auditeur?
Non, merci, vous pouvez prendre. Je remercie M. Baabdoul pour sa brillante intervention. Merci.
D'accord. Je rappelle qu'on va libérer M. Barry tout à l'heure, dans quelques minutes. Donc, nous prenons les derniers auditeurs. Et vous êtes nombreux, vous êtes très nombreux en ligne, aussi bien sur l'application que sur Afia News et sur Radio Moussidal. Malheureusement, on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Comprenez-nous, c'est plus difficile et... Voilà, c'est un peu juste ça, mais vous êtes toujours la bienvenue sur Radio Afia News. Et on va du côté des États-Unis, c'est M. Ben Mohamed. Bonsoir. Allô, vous m'entendez? Allô? Allô? D'accord, je pense qu'il ne me suit pas. On va prendre un autre. D'accord, du côté, cette fois-ci... de la Belgique, Monsieur Barry Teddy, comment allez-vous? Bonsoir. Allô? Vous me suivez, Monsieur Barry?
Allô?
En Belgique. Ah. Non, c'est Monsieur Barry en Belgique, oui. D'accord, je pense que je ne suis pas aussi. Ils sont nombreux, donc pas de souci. Donc, Monsieur Barry, je pense que on arrive bientôt au terme de notre émission. Bon, on vous remercie pour la disponibilité et tout, et puis bon, mais avant, je veux juste passer l'information, on vient juste de me signaler ce vendredi, ce dimanche, ce samedi, pardon, dans l'émission Rendez-vous du Grand Débat, Savoir et Comprendre le samedi, Ibrahim Ahmed recevra Nadia Naman, le porte-parole du candidat Sellou Dalin Diallo au présidentiel de 2015. Donc, c'est juste une information de passage. Merci. Monsieur Barry, je pense qu'ils sont nombreux les auditeurs, mais comme vous savez le principe, on vous a retenu assez longtemps ici à Afia News. Désolé de vous avoir retenu si longtemps. Et si vous avez peut-être un mot de la fin, un mot de conclusion, un message à l'endroit de ces milliers d'auditeurs qui nous écoutent des quatre coins du monde, un message à l'endroit de dirigeants politiques, pourquoi pas de la mouvance et bien d'autres aussi. En quelques mots, quel serait ce message?
Bon, je vous remercie, M. Ba. Oui. Comme je l'ai déjà dit une fois, c'est-à-dire au micro de Kinepress Info, je demande à nos amis et compagnons de lutte des années 90, 92, 94, 96, 2006, 2007, 2009, 2013 jusqu'à 2015 à se joindre à nous, à rejoindre le parti BAG qui incarne nos idéaux de démocratie et de changement en Guinée. Cela est important avant le prochain congrès qui va consacrer la mise en place et le meublement effectif des organes nationaux du parti. Car nous avons besoin des compétences et des personnes engagées et crédibles dans tous les domaines et pour le choix des prochains députés guinéens dans toutes les régions et sur le plan national. Ceux de nos différents groupes qui ont été surpris du lancement du PAG doivent comprendre qu'il ne s'agit pas d'un nouveau programme, mais plutôt de la concrétisation de notre projet politique. Pour sa constitution et son enregistrement officiel aux travaux, les travaux avaient été confiés à une commission restreinte et toutes les démarches ont été menées dans la stricte confidentialité. C'est pourquoi on n'a pas fait beaucoup de tapage là-dessus. Eh bien, nous ne devons pas permettre qu'après la parenthèse douloureuse d'Alpha Condé et de son RPG, les anciens du régime PIP qui ont mis notre pays à genoux reviennent encore au pouvoir devant nous. Ceux-là même qui ont commencé le pillage à outrance du pays, qui ont refusé la démocratie et qui ont permis à Alpha Condé, un ancien condamné et dont l'âge en plus ne permettait pas d'être candidat à une présidentielle, d'être élu chef d'État démocratique et en Guinée pour deux mandats. Une décennie de division ethnique, d'impunité pour les criminels, l'augmentation, l'aggravation de la misère, de la violence et du retard supplémentaire pour une Guinée qu'ils avaient déjà rendu malade. Alors, nous estimons que d'autres Guinéens et les nouvelles générations ont aussi le droit de servir leur pays. C'est pourquoi, bon ou mauvais, les anciens qui ont dirigé ce pays depuis l'indépendance et donc qui sont encore toujours à la tête, à la gestion de ce pays ou bien avec leurs enfants, ces anciens-là doivent désormais aller à la retraite. Ils doivent dégager les places pour de nouvelles compétences et les nouvelles générations. Nous avons besoin du sang neuf pour les prochains parlements et pour les prochains gouvernements de la Guinée. Ce que je voudrais dire comme dernier mot, ici, il faut que cela soit absolument clair et que les gens comprennent une chose. Quand on critique, quand on dit des choses que certains n'aiment pas qu'on dise, parfois les Guinéens, ils disent oui, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais nous sommes ici et à un niveau politique. Nous sommes ici face à des situations qui engagent l'avenir de notre nation. On ne doit pas nier la réalité ou des faits avérés simplement parce que c'est gênant et que cela peut conduire à des discussions fâcheuses ou désagréables. La vérité, c'est que tout le monde peut constater aujourd'hui, c'est que de plus en plus de Guinéennes et de Guinéens ne peuvent pas intégrer le processus de développement et de la prospérité parce qu'on leur ôte la possibilité d'y participer dès la première année de leur naissance ou à cause de leur nom de famille ou de leur appartenance sociale. De ce fait, ils n'ont aucune chance de fréquenter de bonnes écoles et avoir une bonne formation leur permettant d'être compétitifs à côté des enfants de ceux qui ont exclu leurs parents et pillé le pays au profit de leur seule famille. De plus en plus de personnes, même des fonctionnaires guinéens, ne peuvent plus assurer leur vie alors qu'ils travaillent à plein temps. De plus en plus de Guinéens ne peuvent plus assurer leur vie en cas de maladie. Ils n'ont pas les possibilités de se soigner. Les gens ont de moins en moins la possibilité d'avoir deux repas par jour. Eh bien, cette évolution, nous devons dès maintenant y trouver une solution, réverser la situation. Si on ne reverse pas cette situation, ça va être trop tard. Et je le dis encore au peuple de Guinée, on ne doit pas compter sur les anciens ministres qui se sont convertis tous aujourd'hui en politique parce qu'ils veulent revenir au pouvoir. Si eux, ils avaient accepté la démocratie, si eux, ils avaient respecté les droits de l'homme, si eux, ils avaient respecté les constitutions, l'équipe qui est venue aujourd'hui au pouvoir, les Alpha Condé, allait aussi certainement le faire. Les gens-là n'allaient pas trouver d'autre moyen que de le faire. C'est parce qu'ils ont refusé la démocratie au peuple de Guinée que Dadis a pu être président, Sékouba a pu être président dans ce pays, et qu'aujourd'hui, Alpha Condé est président et il rejoint sur les mêmes pas du régime militaire de l'ancien Condé. Les anciens ministres leaders de l'opposition guinéenne sont en retard. Ils sont lents à comprendre les choses et ils sont incapables de réagir quand il le faut, si ils les comprennent. Ils ne font que constater des faits accomplis, se lamenter et pleurer. Jusqu'à quand ces erreurs? Elles sont trop nombreuses et on en a assez souffert déjà. La Guinée en a assez. On est fatigué, il faut que ça change. Nous avons subi trop de malheurs à cause de leurs faux pas, de leur gestion, de leur hésitation et de leur incompétence. Je vous demande à la population guinéenne dans son ensemble de soutenir le BAG, qui est un parti de renouveau, qui est un parti du changement, qui est un parti qui va mettre fin, définitivement fin, au malheur, à la souffrance, à l'insécurité et à la division ethnique en Guinée. Merci.
Merci, Monsieur Sadio Barry. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle qu'on le recevait dans le cadre de la sensibilisation, aussi de l'implantation du parti, surtout aussi pour échanger avec lui sur ce que offre en fait le bloc pour l'alternance en Guinée. Au plaisir, votre fidèle serviteur, Mamadou Rassoumba, depuis le Royaume-Uni et de tout le week-end. Merci, M. Barry. Merci à tous les auditeurs, fidèles auditeurs de trois radios, Radio Moussidal, Radio Afianus et surtout aussi ceux qui nous suivent aussi sur l'application Zeno Live. Et je vous souhaite un bon début de semaine, la semaine prochaine. Merci et au revoir.
Merci.
Bienvenue sur votre radio Afia News. Afia News, c'est vendredi, 20h30, Conakry, dans Bédo Ndiren avec Alpha Souleymane. Samedi, 20h, dans Savoir et Comprendre, avec Ibrahima Ahmed. Et dimanche, 20h, dans Rendez-vous du Grand Débat, avec Mamadou Rassoun.
Lady.